grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a eu plus souvent une bonne main au poker qu'une bonne réponse à la radio, Caroline Diamant. Une grosse tête qui change de radio tous les 50 ans. Heureusement qu'elle n'a pas fait la même chose avec sa culotte. Julie Leclerc.
Oh, c'est du propre.
Vous savez que ça la chose.
Elle s'y attendait pas.
Ah, vraiment pas, non.
Les blagues de culotte, ça marche toujours avec Julie.
Une grosse tête qui est passée de l'entrée de François Hollande à l'Élysée à l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, Valérie Trierweiler. Une grosse tête qui se pose des questions actuellement en tournée, qui attend que je lui en pose à Paris, Laurent Baffy. Une grosse tête qui peut tout aussi bien remplacer Gilles Boulot aux 20h que Chantal Goya dans sa tournée, Christophe Beaugrand.
Mon Dieu, quelle description.
Et une grosse tête qui peut répondre aussi vite aux questions que Beaugrand peut se mettre à chanter, Paul Elkarat. C'est vrai que vous êtes resté 50 ans dans la même radio, Julie Leclerc.
49 pour être précise, ils ne m'ont pas laissé faire la 50e année.
Mais en revanche, pour les sous-vêtements, pas de problème. Non, je vérifie tout de même.
Non, c'est tous les 50 ans.
Est-ce que je suis content de l'avoir quand je pense le temps que j'ai passé à l'intérieur.
Ah mais oui, c'est vrai que vous avez été longtemps ensemble.
Ben oui, à la radio.
Et oui, j'avais dans l'apnée. Mais quelle joie.
Il m'en a fait des trucs. Le pire, vous savez ce qu'il m'a fait?
Non, allez-y.
Incroyable. On avait le même bureau. On était juste en face comme ça, l'un et l'autre. À un moment, je quitte ma place. Je quitte le bureau.
Je quitte ma place. Vous voyez comme elle
non,
va.
Non, ma place. Je voulais dire.
Oh, le lapsus révélateur. Elle est vraiment à la retraite, la vieille.
Hein. Là, c'était pas une culotte, c'était un bikini.
Je m'absente une vingtaine de minutes, disons. Et je reviens. Et il y avait mon portable sur la table. Et un appel de Denis Oliven, qui était mon patron. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Venez passer à mon bureau et tout. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oh non!
Laurent me dit, qu'est-ce qui te prend, Julie?
Laurent Ruquier?
Laurent Ruquier.
Ah, tiens.
Si, vous m'avez envoyé un message car vous étiez sur la liste des gens que Baffy a contacté dans mon portable pendant que j'étais absente. Et il a envoyé que des trucs de cul. Alors, à Denis Oliven, mon patron, j'ai envie de toi, machin. À Laurent, alors qu'est-ce que t'attends? On est fait l'un pour l'autre et tout, je sais pas quoi.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Denis Oliven t'a renvoyé un message en disant, viens dans mon bureau.
Mais est-ce que ça s'est fait tout le bureau?
Alors, est-ce que ça s'est passé ou pas, alors?
Ah, vous êtes non, fait
c'est
patron,
ça va, ben voilà. C'est pour ça qu'elle est
non,
restée.
Mais il y avait dedans.
Ça a dû le changer, d'Inès de la Fressange, dis donc.
Ah oui, c'est clair.
Non, mais c'est un cauchemar, parce qu'il y en avait tout.
Non, mais attends, mais tu peux pas. Non, ne pas
que des gens un peu connus de mon
C'était
répertoire.
Beaucoup plus hard que ça, en plus. Les
mais non, oui, bien sûr. Bon.
Je veux te prendre en bouche, à Guy Carlier.
Ah non, mais c'est horrible, vous imaginez pas. Et après, il a fallu que.
Les gens ont dû se douter, quand même. Non, ils ont dû se douter.
Oui, non, il a fallu qu'elle les suce tous après.
Bah, c'est les messages que vous envoyez il y a 40 ou 50 ans à Topalov et à Antoine. Hein.
Allez, arrêtez.
Ah, il y a eu Antoine aussi.
Oh, je serais de vous, je rigolerais pas,
non,
Caroline.
Non, je rigole pas.
Mais moi, je ne savais pas qu'elle avait
eu Antoine
une vie,
aussi. Hein, ah non, mais elle a
une
eu.
Une vie aussi riche, mais c'est rien
une,
du tout.
C'est Antoine. Une star
fuckeuse. Mais c'était il y a longtemps.
T'as tu sais Clémenceau mais...
En fait, c'était l'époque de la libération sexuelle.
On a quand même trois blondes incroyables. Il y en a une, elle a fait la tournée des yéyés, l'autre celle des années 80 et la troisième, l'Élysée.
Non, mais
moi, c'est la tournée du yo-yo. Hein.
Il est temps, je crois, de passer à une première citation pour Jérôme Cuivre, qui a dit « Il faut toujours avoir une bonne paire de chaussures et un bon matelas, parce que si vous n'êtes pas dans l'un, c'est que vous êtes dans l'autre. »
Jean-Yann.
Pierre Dac.
Jean-Yann.
Non, non. Quelqu'un qui était un habitué des grosses têtes.
Sim.
Coluche. Sim. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est Sim. Pour Karine Breitman, qui habite Marseille, qui a dit « Je fais un régime à l'ail, qui consiste à mettre de l'ail dans tout ce que je mange. Ça ne fait pas maigrir, mais ça fait reculer les gens, et de loin, je parais plus maigre. »
Coluche, Pierre Desproges.
Non.
Un homme ou une femme?
Michel Bernier.
Pas Coluche, mais c'était bien avant Coluche.
Pierre Doris.
Et c'est Pierre Doris.
Ah, oui.
Excellente
ah,
réponse. De Paul Elkarat, pour Coralie Carpen, qui habite Ponto de Mer, qui a dit « Un optimiste, c'est celui qui sort ses clés de voiture quand la personne qui prononce un discours dit en conclusion. »
Pierre Dac.
Français mort.
Alors, pas français, mort, oui,
américain,
mais pas français.
Groucho-Marx.
Bob Hope.
Alors, il était britannique de nationalité, je
Hitchcock.
Pense.
Peter Ustinov.
Et c'est Peter Ustinov. Excellente réponse de Laurent Baffy.
Quelle machine.
Il avait l'air drôle. Hein.
Ah, il était très très drôle.
Laurent Baffy. J'aurais bien aimé le rencontrer.
Ah oui.
En plus, lui, il a joué Hercule Poirot.
Moi, je l'ai rencontré une fois. Je l'ai eu comme invité à France Inter dans les années 90.
Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'était pas très sympathique en revanche?
Oh, j'ai pas souvenir. J'ai souvenir parce qu'il était réputé pour faire des imitations. J'avais évidemment préparé l'émission et j'avais vu la liste des imitations qu'il était capable de faire. Et c'était écrit à l'époque Ronald Reagan. Vous vous souvenez du président des États-Unis? Je lui ai demandé à un moment donné, pouvez-vous m'imiter? Il parlait très bien français, aussi. Oui. Pouvez-vous m'imiter Ronald Reagan? Et là, il fait, non, j'ai oublié. Je fais, ah, dommage. Je fais, non, quand je dis, ah, j'ai oublié, je suis en train de l'imiter. Ah, il était très, très drôle. Mais voilà, j'ai eu la chance de le croiser une seule fois. Une autre citation pour Raphaël. Ça fait vieux, d'un seul coup, d'avoir connu Peter Ustinov.
Attendez, Julie a croisé Molière, ça va.
Pour Raphaël Reisberg, qui habite Dreux dans l'Eure-et-Loire, qui a dit, j'ai dû laisser tomber le masochisme. Ça me plaisait trop.
Pierre Légaré.
Non, pas Pierre Légaré.
Français mort.
Français mort.
Jean-Yann.
Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Allez, une dernière pour la route pour Jean-Yves Marciano qui habite Suresnes, qui a dit « Ma femme peut compter ses anciens amants sur une main, mais elle a besoin d'une calculatrice.
» Woody Allen ?
Pas Woody Allen, mais ça vient d'outre-Atlantique.
Bob Hope.
Pas Bob
David
Hope.
Letterman.
Non.
Richard Pryor.
John Burns.
Un mec qui a un show.
Alors, il a eu, je crois,
effectivement.
Richard Pryor.
Richard Pryor, non.
Est-ce qu'il est réputé homme à femme?
Oh, homme à femme. Bah, là, ce serait plutôt sa femme.
Ah non, c'est le contraire.
Elle comprend rien.
Oh là là.
Vous avez dit?
J'ai dit Adam Sandler.
Adam Sandler, non.
Mais c'est un comédien?
Alors, Jerry Seinfeld.
Et c'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Christophe Baudrin. La première question, ce sera pour Paul Elcarat, parce que je le sens un peu frustré. Il m'a reproché pendant la pub qu'il n'y ait pas eu de citation littéraire.
Bah, Seinfeld, non.
Et ben là, je vais vous dire, c'est une question historique, et même je vais vous donner une date, carrément, là, d'entrée.
Oh bah alors, on peut rentrer chez nous, hein.
Le 5 novembre 1605.
Ah, la conspiration des poudres.
Bon, bah écoutez, allez, voilà.
Je sais pas ce que c'est.
Mais non, mais...
C'est quoi?
Vous pouvez expliquer à vos camarades ce que c'est que la conspiration des poudres?
Alors, la conspiration des poudres, on est 2 ans après la mort d'Elisabeth II, on est en Grande-Bretagne. Guy Fawkes, qui donnera son nom au masque des Anonymous, décide avec plusieurs conspirateurs de faire sauter le Parlement parce qu'il veut plus des Stuart au gouvernement, parce qu'à l'époque c'était Jacques Stuart qui avait pris la succession, les Tudors étaient finis, et lui il est un peu... Il avait un peu de mal parce que déjà ils n'étaient pas de la même religion les deux. Il y avait le retour des catholiques.
Bon, c'est la pub, laisse tomber.
C'est un attentat manqué, il faut
oui,
dire.
Oui, c'est hein. Ça. C'est, ah, bah, ça ils ont été pendus tous après.
Ah oui, ça n'a pas marché. Hein, un attentat manqué contre le roi Jacques Ier d'Angleterre. La conspiration des poudres, c'est bien et le 5 novembre 1605.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'en rappelle alors que l'attentat est raté et que Jacques Ier, c'est quand même pas le roi le plus connu
d'Angleterre.
Mais je vous
dis pourquoi.
Oui.
Pour pouvoir poser une question à Paul Elcarat, grosse tête. Ah, oui. Des décennies et des siècles plus tard, madame. Pour Romain Le Teul, qui habite Calvi en Haute-Corse, quel célèbre personnage meurt pendu à un arbre à la fin de sa célèbre histoire, écrite en 1883. Il se suicide en se pendant un chêne, un grand chêne.
Londres.
François Villon.
Pardon.
François Villon.
François Villon,
en
non.
En France, on est en France.
Alors, on n'est pas en France, mais c'est un personnage connu aussi en France.
Ah, il s'est pendu, c'est peut-être Tourguignève.
Ah non, non, non.
Alors, en tout cas, on est dans un pays où il y a des chaînes.
Oui, on est dans un pays où il y a des chaînes.
Et là, il y a des glands aussi. Hein. Alors,
vous dites que c'est un personnage, c'est pas une vraie personne.
C'est pas une vraie personne.
C'est dans une fiction.
C'est dans une fiction.
C'est dans un conte d'Andersen.
Dans un conte d'Andersen, non. Et effectivement, c'est en 1883 que ce personnage apparaît pour la première fois et à la fin de l'histoire, il est pendu au grand chêne.
Il était dépressif.
Barbe bleue.
Il s'est suicidé et il est mort pendu à un arbre.
Est-ce que l'auteur avait peur que ça ne marche pas et qu'il n'ait pas besoin d'écrire une suite?
Ah non.
Est-ce qu'il était méchant?
Non, alors je vais vous dire, c'est même étonnant parce que je crois que, vu le succès, il a été obligé
de le dépendre.
De le ressusciter.
Sherlock Holmes.
Est-ce que c'était un gentil ou un méchant ou un sale personnage?
Le personnage?
Celui qui s'est suicidé.
Ah, ce serait compliqué.
Bah, dépressif, en tout cas.
De vous répondre.
Ah, bah, on sait, quand
Frankenstein.
Pas
Zola?
Pas méchant, mais quand même puni, la pandémie.
Il avait fait des bêtises.
Oui, voilà.
Pas Stevenson?
Stevenson, non.
C'était un héros d'aventure.
Frankenstein,
non.
Pinocchio,
excellente réponse de Paul Alcarat.
Même ça, il le parle. Mais Pinocchio, je ne savais pas qu'il était Carlo Collodi.
Dans la première version, évidemment, vous connaissez la version de Walt Disney. Vous savez que chez Walt Disney, on édulcore un peu tout.
Mais, il est dans une baleine et tout.
Mais dans le roman écrit par Collodi en 1881, publié en 1883, Pinocchio se pense suicide à un chêne à la fin de l'histoire. Alors évidemment, pour Walt Disney, pour les enfants, ça ne pouvait pas passer. Donc on a
après sa transformation en enfant.
Et voilà, on a modifié évidemment l'histoire ensuite. Mais dans la première histoire, et d'ailleurs, on réédite la version originale quand on veut lire le roman de Collodi, eh bien, oui, Pinocchio meurt pendu à un arbre. Il se suicide à un chêne à la fin.
Et vous aimiez Pinocchio quand vous étiez petit?
J'ai jamais cru à l'histoire d'un charpentier qui a un fils, qui fait des promesses, tout ça.
J'ai compris votre vanne, chef.
Pas mal.
J'ai compris votre vanne, chef.
Ouais, merci, aussi, monsieur Duffy.
Merci.
Une autre question, si vous voulez bien. Alors là, plus surprenante, cette question. Puisque nous avons quand même les spécialistes des variétés ici présents avec monsieur Beaugrand, madame Diamant aussi, mais surtout monsieur Beaugrand.
Oh bah, madame Diamant, elle a travaillé dans le disque.
Julie Leclerc.
Elle a connu du chanteur.
Moi, j'ai passé des disques.
Julie qui a quand même connu, évidemment, les variétés des années 70.
Moi, j'ai dansé derrière Joe Dassin avec les Carpentiers.
Et alors, justement, vous vous souvenez de l'émission numéro 1
des
Carpentiers?
Bien sûr, c'est
Eh oui, ça passait tous les samedis.
Moi, j'étais pas né quand même.
La première émission, donc, de numéro 1 des Carpentiers. Il y avait eu d'autres émissions des Carpentiers précédemment, bien sûr. Mais c'est leur passage, je crois, à ce moment-là, de la 2 à la 1. Car avant, ils étaient sur la deuxième chaîne. Et puis, ils changent donc le titre de l'émission et ça va s'appeler numéro 1. Et évidemment, chaque émission, ça a été consacré à un artiste invité qui lui-même ensuite invitait des amis chanteurs ou comédiens ou artistes.
Une carte blanche.
Et alors, exactement. Le premier numéro 1. Du 5 avril 1975, à qui les Carpentiers...
Sylvie Vartan,
non, avait fait confiance.
Sacha Brialy.
Non.
C'est un homme?
C'est un homme.
Claude François. Il est décédé?
Ah, alors, aujourd'hui, écoutez, je crois qu'il vit encore. En tout cas, j'ai pas de date de disparition, donc j'imagine qu'il vit encore.
D'accord. Gilles Dreux.
Ah, alors, Laurent, c'était un compositeur classique, il jouait du classique, il faisait pas de la variété. En fait.
Alors, il faisait pas de la variété.
C'est simple.
Mais ça n'était pas un compositeur.
Un musicien.
Un musicien, non.
Il faisait un chanteur d'opéra.
Un chanteur d'opéra.
Amable. C'est quelqu'un qui chantait quand même?
Non, il ne chantait pas.
Il faisait un instrument de musique.
Ah non, non.
C'était un acteur?
Un acteur, non.
Ah, oui, c'était Nourayef?
Nourayef.
Un danseur?
C'est un danseur.
Il était français?
Chris Marquez.
Non.
Mais non.
Il a évidemment été danseur étoile à Paris, à l'Opéra Garnier, mais il était né en Allemagne.
Alors attendez, un danseur classique d'origine allemande?
Oui, né en 44.
Né en 44.
De mère allemande et de père français.
Donc, alors attendez Laurent, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un indice peut-être pour nous aider?
Ah ouais. Bah non, mais écoutez, non, peut-être que quelqu'un dans le public aura peut-être la réponse.
Vous avez raison.
Je ne voudrais pas empêcher quelqu'un de gagner 100 euros.
Les initiales.
Et
Laurent,
pour l'instant, on n'est pas loin de 300 déjà qui s'en vont.
Les initiales.
Non. Klaus quelque chose.
Ah, Klaus. Non.
Alors le prénom est allemand?
Non.
Est-ce qu'il avait un prénom de saint?
Un prénom de saint? Non, pas à ma connaissance.
Bon, eh bien, donc écoutez, on n'a aucune idée. Vraiment, aidez-nous, Laurent.
Ah bah non, je vous aiderai pas. Parce que de toute façon, le gong va...
Alors, il y avait qui d'autre invité à cette émission? Il y avait des chanteurs, quand même?
Ah bah, évidemment, ils ont pas fait...
Donnez-nous des noms.
J'allais dire son nom, dites donc.
Ah bah voilà.
Mais c'est Nourayef, on l'a dit, Nourayef?
Ah, oui, bien sûr, on l'a dit 8 fois. Ils ont pas fait danser les gars pendant 1h30 sur TF1, samedi soir, vous voyez.
Ah bah, on fait ça maintenant, ça s'appelle Danser avec les stars.
Oui, c'est vrai. 300 euros qui s'en vont. Est-ce que quelqu'un se souvient dans la salle?
Il y a une main au fond.
Allez-y, Beaugrand, peut-être 100 euros de plus.
Je vais au fond. Alors,
François Renucci, notre réalisateur que je viens d'interroger, n'a pas la réponse et croyez-moi, c'est rare.
Alors, je vais vous demander votre prénom et d'où vous venez.
Michel Levallois.
Alors, dites-moi, Michel de Levallois, quel est le nom de ce danseur?
Michael Denard.
Michael Denard, excellente
Bravo.
Réponse, monsieur. Michael Denard. Une question pour Laurent Pinault, qui habite Noisy-le-Roi, c'est dans les Yvelines. Pouvez-vous me redonner le nom de la déesse de l'agriculture et des moissons qui apparaît dans la mythologie grecque ?
Terra ?
Déméter.
Déméter ! Excellente réponse de Paul Alcarat. C'est avec elle que s'est décidé le cycle des saisons. Vous pouvez peut-être expliquer.
Exactement. Je pensais que c'était Karine Le Marchand, la déesse de l'agriculture. Hein, excusez-moi.
Bah depuis l'enlèvement de sa fille Perséphone par Hadès.
Et voilà.
Ah oui, le dieu des enfers.
Oui,
évidemment. Plus l'automne et l'hiver, les périodes où rien ne pousse et où tout tombe et où elle est en dépression, c'est chez Hadès. Et ensuite tout refleurit, tout reverdit quand elle revient à ce côté de sa mère.
Et voilà la suite de votre feuilleton préféré après la pub.
Oui.
C'est ça. Rappel des cycles.
Pour Michel Rivard, qui habite Perpignan, qui, 2 ans avant sa mort, le 4 mars 1856, vous avez bien entendu, monsieur
Poitras. Oui, ah bah, surtout.
Deux ans avant 1858.
Et, oui, exactement. A rédigé cette lettre. Par une décision souveraine de ma mère, il fut arrêté que ce ne serait pas moi, mais mon frère, âgé de 2 ans à peine, qui ferait le même métier que mon père. Je n'en fus pas satisfait à l'époque, mais par la suite, après mûre réflexion, j'en fus très content, m'étant persuadé que les fils d'un père qui s'est illustré ne doivent jamais courir la même carrière, car même en possession de plus grands talents que ceux que je reconnais en moi, ils ne peuvent jamais répondre aux exigences placé en eux.
Samson le bourreau ?
Non.
C'est quelqu'un qui est mort sur la potence.
Ah non,
ah,
non.
C'est peut-être Michel Sardou, le fils de Jacques Sardou.
Polydan.
1856.
Est-ce que c'était chez les rois ?
Ah non, non, c'était pas chez les
alors,
rois.
Alors, est-ce que son activité était artistique au père ? Est-ce qu'on s'en rappelle ?
Non, parce qu'on ne, donne pas une activité artistique, on ne la transmet
c'est un
pas.
Français ?
Ah, le père est mort beaucoup plus jeune que le fils. Fils aîné, lui, celui dont je vous parle, là, il est mort à 74 ans.
Est-ce que c'était une profession qui était une charge ?
Une charge. Alors lui, en revanche, celui dont je vous parle qui a fait cette lettre-là, avait effectivement une charge en Italie, du côté de Milan, voyez-vous.
Mais il a bien, notaire.
Il a bien fait de faire autre chose.
Ah oui, et ben c'est ce qu'il explique.
Non mais il a eu un gros succès dans ce qu'il a fait.
Qui ?
Dans le choix qu'il a eu de... Enfin, pas le choix, il a subi le fait de faire autre chose et il est connu pour ce qu'il a fait.
Ah non, non, c'est son père qui est connu.
Ah,
son père,
et lui, il est resté dans l'anonymat.
Absolument.
Ah, Caravaggio.
Pardon.
Caravaggio.
Non, 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 non.
C'est un peintre.
C'est pas un peintre.
Son père est décédé. Quoi.
Un architecte.
Alors, son père est décédé. Je vous l'ai dit, bien, bien avant. Je pense qu'il devait avoir 7 ans quand son père est mort.
Alors, attendez, il est mort en 58, il avait 75 ans.
C'est le fils de Mirabeau.
Ah, le fils de Mirabeau. Non.
C'est un Italien.
Ah non, pas du tout.
Ah non.
Ah mais c'est. Ah mais si c'est le fils de Mozart.
Excellente réponse. De Paul Alcarat.
Oh, j'ai regardé Amadeus hier soir.
Moi aussi, j'ai regardé.
C'est
comme ça que j'ai trouvé la question.
Ah oui, le petit
en regardant le film de Milos Forman, parce que je me suis dit, le gamin qu'on voit dans ce film, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Eh bien, écoutez...
Et donc, la réponse, c'est rien.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Si, justement, parce qu'il a eu plusieurs enfants. Très peu ont survécu, enfin, très peu. À l'époque, vous voyez, on vivait pas très très vieux. Lui-même, d'ailleurs, un Mozart...
35 ans,
rappelons-le, il est mort, voilà, 35 ans, Wolfgang Amadeus, et il a eu 2 garçons. Il a eu des filles qui sont mortes très jeunes, et 2 garçons, Karl Thomas Mozart, l'aîné. Lui, il a quand même vécu jusqu'à l'âge de 74 ans. Et donc, 2 ans avant sa mort, ce Carlo, parce qu'il était en Italie, on l'appelait Carlo Mozart, eh bien, il écrit cette lettre que je viens donc de vous donner pour expliquer qu'il a eu finalement la chance que sa mère lui évite de devenir musicien, comme son petit frère, parce que son petit frère n'a jamais réussi, évidemment, à être aussi doué que son père, Mozart.
C'est dur.
Et lui, comme ça, ben, au moins, il a eu une vie plutôt tranquille.
Et on sait ce qu'il a fait, lui. Il a rien fait.
Ah ben, je vous ai dit.
Du fromage.
Non, il n'a pas fait du fromage. Mozzarella.
Ah, voilà. D'accord.
Ah, il faut vraiment que je suive.
Ok.
C'est avec Constance qu'il a eu un petit garçon.
Oui, il a eu d'autres enfants aussi, Mozart.
Mais avec qui?
À droite, à gauche.
À droite, à gauche.
Mais qui sont tous morts rapidement. Et là, celui-ci, en tout cas, Carlo Thomas Mozart, il est parti travailler au service du vice-roi d'Italie, Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon Ier à Milan. Il avait une tâche de fonctionnaire qu'il a eu.
Eh ben voilà, moi, je vois que ça conserve de rien foutre.
Mais, en revanche, il revenait régulièrement à Vienne ou parfois à Paris pour rendre hommage à son père, Wolfgang Amadeus. Et à la fin, évidemment, même à son enterrement à lui, on a joué le fameux Requiem.
Oh, c'est magnifique.
C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique, vous aimez.
Oh, mais ah, bah c'est oui, exceptionnel le Requiem.
Ah oui, oui, oui.
Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est un, ça mais fait oui. Un peu musique d'enterrement, malheureusement.
Lacrymosa,
je sais pas
ouais,
je voudrais bien. À mes obsèques, parce que c'est...
Eh, c'est mardi, hein, choisi.
Hein. Dès que tu sentiras que la mort vient, tu l'écris.
Quelle horreur.
Vous, au téléachat, parfois, on a surnommé Julie à Vendéus.
Oh, Vendéus, mais c'est vrai qu'on vendait des trucs, vous savez qui...
Oh, les housses qu'on aspire avec... Oh, c'est formidable.
Oh, j'ai acheté.
C'est j'en ai
j'ai
chez moi,
acheté
c'est
y a pas
formidable.
Longtemps. Ouais. C'est un kit d'aspirer ça.
Mais oui, mais après, ça revient, non?
Souvenir, souvenir.
Tu parles d'un
j'ai
ex.
Pas compris quelle housse.
Regardez, non, c'est fabuleux.
Les
c'est
fameuses
fabuleux.
Housses pour ranger les vêtements d'hiver ou ouais. Machin.
Ou des couettes.
C'est
ou
un
les
sac couettes. En plastique.
C'est un sac, vous videz l'air et ça diminue.
J'aimerais avec un bien aspirateur.
Il bah, y a une ouverture.
Mais quel est l'intérêt?
Mais ça prend mais pas de place.
Par exemple,
c'est un
vous...
jeu.
Mais non, vous gagnez de la place dans vos placards, Laurent.
Ça occupe les vieilles.
Non, mais Laurent.
Non, mais... Une couette, par exemple, une couette qui fait 30 cm de hauteur,
tu as
ça devient une petite crête.
Que de cheval.
Exactement.
Ah non, mais c'est formidable. Ah, et surtout, ah. C'est jouissif quand vous,
c'est jouissif.
Vous commencez à aspirer et vous voyez que ça devient de plus en plus
petit. Moi, j'ai envie de votre vie, là, les gars.
Ah non, mais c'est génial.
Moi, je l'achète dès ce soir.
Ah non, mais je te jure. Ça, c'est extraordinaire.
Ah, non, non.
Vous devriez retourner faire du téléachat, Julie.
Ah oui, mais je crois qu'ils veulent plus.
En tout cas, bravo. C'était bien Carlo Thomas Mozart, le fils de Mozart. Il est doué en calcul, le petit, hein.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Valérie Trierweiler, Julie Leclerc, Caroline Diamant, Paul Elkarat, Christophe Beaugrand et Laurent Baffi. Des questions littéraires, je vous attends au tournant, Valérie Trierweiler.
Oui, c'est du contemporain.
Ah ben, il y a du contemporain, vous, mais j'attends aussi, évidemment, Paul Elkarat.
Moi, c'est plutôt mort contemporain.
Mais je vais éviter de donner des dates, hein, pour commencer.
Ah,
je vais vous demander de retrouver le nom de cet écrivain qui a écrit un roman qui s'appelait Le Mât Théotime. Ce roman est paru, ça je peux le donner parce que ce sont pas les dates de l'écrivain.
Bosco.
Pardon.
Jean Bosco.
Mais c'est pas Jean Bosco.
Henri Bosco.
Henri Bosco. Bonne réponse.
Ouais, mais... Vous avez donné le titre, quoi.
Ah bah oui, bah, dis donc, vous connaissiez, vous, non, le Mât Théotime ?
Non. Je déconne, ma
bah oui, oui, c'est de Henri
moi,
Bosco.
Moi, je connais L'Enfant de la rivière.
Bosco, oui.
Alors,
qui se passe dans la Durance.
L'Enfant et la rivière.
L'Enfant et la rivière.
Oh là là, il est mauvais.
Oh, il est approximatif. Il est nul.
Il est nul.
Jean Bosco. C'est Jean-Michel à peu près aujourd'hui.
L'encyclopédie de mes couilles.
Tu sais qui c'est, Jean Bosco ?
Henri Bosco.
Oui, mais Jean Bosco. Pourquoi je me trompe avec Jean Bosco ?
Allez-y, allez-y.
Parce que c'est un homme d'église italien. Du 19e siècle qui porte son même nom et j'ai inversé les prénoms.
Il n'y a rien à voir.
Mais quand c'est sûr, quand il y en a un qui connaît ni l'un ni l'autre,
qui
il permet de rigoler.
Bon grand et moi aussi, parfois ça nous est arrivé à nous tromper de Bosquet. De Bosco.
Ou de prénom d'ailleurs.
Henri, ça m'arrive de me tromper de Clavel par exemple. Bernard et...
Henri Bosco.
Ah, on se trompe de Clavel, on se trompe de Bosco. Ah, c'est dur, hein, la
c'est
vie.
Compliqué.
Hein.
Henri Bosco était un grand romancier français, né à Avignon. Et il a quand même eu, il faut le dire, le prix Renaudot en 1945 pour L'Enfant et la rivière. Vous voyez, c'était même pas le roman le plus connu que j'ai donné. Il a écrit aussi L'âne culotte, Le renard dans l'île, Mal
L'âne culotte.
Oui, L'âne culotte. Ah, oui. Et Le Mât Théotime. Bravo, voilà. Bravo, monsieur Elkarat. Une autre question, et cette fois, il s'agira de trouver l'auteur. Pareil, je ne donne pas les dates, mais je donne les titres des romans.
Oui, bah mais c'est bien de donner les titres des romans.
Si vous voulez, ce qu'on va faire, on demande à Paul Elkarat pendant...
De fermer sa gueule.
Voilà.
Non, mais pas longtemps.
Et
non,
mais j'ai compris.
30 secondes, sans rien dire, et puis après, bah, vous les humiliez, d'accord ?
D'accord, avec un plaisir immense.
Mais ne l'encouragez pas, messieurs dames. Arrêtez de l'encourager.
Le paysan perverti, la vie de mon père, Les Nuits de Paris ou Monsieur Nicolas. Voilà autant de livres écrits par un écrivain dont le surnom était parfois le hibou, le spectateur nocturne, Monsieur Saxancourt ou encore.
Il était myope.
Ah non, non.
Le hibou, il avait des gros yeux.
Ah non, 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 il n'avait pas des gros yeux.
Je sais pas, moi.
Ah, remarquez sur la toile que je vois, là, oui, il avait des gros yeux.
Ah, voyez. Ah,
il n'y avait pas de toile.
Il n'y avait pas de photo.
S'il n'y a pas de photo, c'est qu'il est vieux, c'est que c'est ancien.
C'est très vieux, donc.
Ah, bah oui, ça, c'est pas tout jeune, hein, effectivement. On est, on va dire.
C'est pas la paysanne pervertie, c'est le paysan.
Ah oui, on est au 18e siècle, c'est le paysan perverti, aucun rapport avec Karine Le Marchand.
Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai une pièce qui me revenait avec la paysanne pervertie.
Alors, monsieur.
J'ai une idée,
allez-y, monsieur.
Bah non, mais j'attends 30 secondes.
Ah, bah,
c'est bon,
moi c'est bon, je te donne l'autorisation de répondre.
Mais en plus, je suis même pas sûr.
Allez-y.
Bah, le sage, mais c'est pas.
Ah non, c'est pas le sage.
Ah, je pensais à lui aussi, moi. Hein,
ouais. Ouais.
C'était des pièces de théâtre.
Est-ce qu'il a écrit quelque chose de plus connu que ça?
Ah, son roman le plus connu, son vrai grand livre, c'est La vie de mon père.
Ah bah oui.
Espagnol.
C'est pas le château de ma mère.
Ah non.
Oui, c'est exprès. Non. La vie de mon père.
Alors, c'était le fils d'un laboureur de Lyon. Bah,
oui, enfin, comme si ça allait nous aider. Vous voyez, je connais tous les noms des laboureurs.
Nicolas Gilbert.
Giuseppe Siffredi.
Ah non.
Nicolas Gilbert.
Un laboureur de Lyon, c'était pas...
Il écrivait beaucoup. Il était ce qu'on appelle graphomane. Il a donc fait paraître de très nombreux ouvrages de tout genre et touchant donc à des genres divers.
Alexis Piron.
Aussi bien du roman pornographique.
Ah, mais ça, c'est pour Baffy.
L'Anti-Justine ou les délices de l'amour.
Ah, mais c'est Marquis de Sade.
Non, c'est pas
l'Anti-Justine.
L'Anti-Justine.
Ah, donc c'était en réponse au Marquis de Sade.
Des ouvrages sur Paris, La Révolution, Les Nuits de Paris ou Le Spectateur Nocturne, 8 volumes.
Il est mort en quelle année, ce monsieur?
Alors,
attendez, c'est pas Rivarol.
Rivarol, non. Son autobiographie ou La vie de mon père. Un tableau idyllique du monde paysan avant la Révolution.
On a parlé d'une question, il est mort avant la Révolution ou pas?
Et il a aussi écrit alors son autobiographie, et là ça devrait vous aider, Monsieur Nicolas.
Il s'appelle Nicolas.
Voilà, c'est son prénom.
Fouquet-Tinville.
Mais c'est vrai qu'on utilise...
Sarkozy.
Non, on utilise rarement son prénom.
Il est mort pendant la Révolution.
Et son autobiographie, il l'a écrite en 8 volumes. Je ne sais pas si vous voyez.
Il avait une vie bien remplie.
Le mec, il a l'ego, dis donc.
Ah ben il est mort à 71 ans, il a eu le temps de la remplir.
Excusez-moi.
Et à l'époque, évidemment, c'était quand même rare de mourir à 71 ans. Vous
Nicolas voyez. De Chateaubriand.
Est-ce qu'on a au moins le siècle de la mort de
18e.
Alors je vous l'ai dit,
il a vécu
au 18e, mais il est mort au 19e, en 1806.
Il était poète aussi.
Un poète, non, il a écrit Monument du costume physique et moral. Qu'est-ce qu'il a écrit? Parisienne, La femme infidèle, L'éveillé du marais.
L'éveillé du marais, c'est moi.
La dernière aventure d'un homme de 45 ans, La malédiction paternelle, Le quadrégénaire.
Et vous le connaissiez, vous, Laurent?
Oui, je connaissais de nom, et on a déjà posé des questions sur lui ici même.
Est-ce que ses livres sont réédités?
C'est aussi un des personnages principaux du film La nuit de Varenne d'Ettore Scola.
Il avait une particule?
Et c'est Jean-Louis Barrault qui jouait son rôle au cinéma.
Est-ce qu'il avait
Nicolas Drouot?
Est-ce qu'il avait une particule?
Drouot, non. Oui, il avait une particule.
Alors il l'a acheté,
Nicolas
de Stahl. Son père était laboureur. Donc il a acheté la particule.
On peut labourer. Oui. En étant noble ou pas?
Non, on peut pas labourer.
On peut aussi labourer par la particule. Il est né, puisque on n'a rien obtenu de Paul Elkarat.
Non, mais en 35.
Il est né en 1734 et il est mort en 1806. Et là, je crois que je suis en train de coller Paul Elkarat avec un romancier écrivain français.
Oui, mais il sort du Covid.
Imprimeur aussi, si ça peut vous aider.
Nicolas II.
Ah oui.
Nicolas II.
Alors, c'est pas Nicolas II parce qu'il y a un nom avant le II encore.
Ah. Nicolas Jean.
Non.
Nicolas François.
Ah non.
Nicolas
non.
Pierre.
Ah non, une carrière littéraire importante.
Il y a un deuxième prénom.
Et surtout abondante. Il a énormément écrit. Mais manifestement, ça n'est pas arrivé jusqu'à vous.
Par exemple, il s'appellerait genre Nicolas André de Jacques. Mar.
Par exemple.
C'est un deuxième prénom qu'on attend?
Ah non,
c'est un nom de
son nom est quelque chose de truc.
Mais je vous dis, on utilisait rarement son prénom, Nicolas. On l'appelait 1-2-1.
Bernardin de Saint-Pierre.
Il est en tout cas son œuvre est une source abondante de renseignements sur la vie rurale et sur le monde des imprimeurs au 18e siècle.
C'est dommage, je veux bien que vous m'offriez.
Parce que j'avoue que la vie des imprimeurs
en 8 volumes,
ça donne envie. Hein.
Si jamais j'ai le Covid de nouveau.
300 euros pour Cécilia Martinez qui habite Dinard. Je ne pensais pas vous faire chuter avec cet écrivain.
Je pense que je le sais.
Et je vois une main qui se lève là-bas au fond.
C'est une main qui est à côté du monsieur de Levallois-Perret. Donc ça doit être...
Laurent, vous avez un surdoué de secours ou pas?
On a un nid d'intello au fond.
Christophe Beaugrand se déplace jusqu'à notre auditeur.
Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Vous venez d'où?
Bonjour, Laurent de Paris.
Laurent de Paris, avez-vous la bonne réponse? Question, réponse.
Restif de la Bretonne.
Nicolas Restif de la Bretonne. Excellente réponse.
Alors moi je connaissais pas non plus, hein.
Bon, alors je vais évidemment revenir à un niveau un peu plus bas.
Oh, ça va, eh oh. Là, ne soyez pas humiliant.
Non, non, ouais,
il est méchant.
Et on va retourner dans les années 70. Tout à l'heure, c'était Michael Denard. Là, on est à Ring Parade, vous voyez.
Animé par Guilux.
Ring Parade.
J'essaie de trouver des questions pour Julie Leclerc, vous voyez.
Oh, merci.
Elle s'est fait aussi Guilux.
Mais non, mais arrêtez.
Non, mais peut-être qu'elle a vu ce chanteur quand il est passé par Paris. Un chanteur qui vit encore, d'ailleurs.
Alors, pas de vanne déplacée.
Ah non, bon, je crois pas qu'il nous écoute parce que c'est un chanteur américain, voyez-vous.
C'est pas Mort Schumann, il est mort. Hein.
Pas Mort Schumann.
Il est mort, Schumann.
Et d'ailleurs, il a travaillé pendant un certain temps sur la succession d'Elvis Presley à Graceland. Et il a été numéro un chez nous en France, un tube mondial en Allemagne, au Royaume-Uni, un tube international en 1974. Je vais vous faire écouter ce tube qui date de 1974. Pourrez-vous retrouver le nom de ce chanteur?
Patrick Hernandez?
Ah non, non, non.
Ah oui, David Alexander. Oui,
ah non,
non, non.
On connaît la musique en tout cas.
I can help.
Ah oui, on connaît ça.
Oui, on connaît. On a dansé là-dessus.
I can help.
C'est bien, hein?
Ouais, c'est bien.
Ah mais oui, mais c'est pas le mec qui avait les cheveux teints en noir et qui faisait de la country aux États-Unis?
Je l'ai pas vu quand il sortait de chez le coiffeur, je peux pas vous dire.
Attendez.
Il a un petit air aussi de.
Oh, on peut écouter encore un peu.
Il a un petit air de Tom Jones.
Ça va peut-être revenir.
Willy Cat.
Willy Nelson. Quelque chose de.
Bon, moi, j'ai Dick Rivers pour dire quelque chose.
Comment vous dites?
Marche à l'amour.
Marche à l'amour, non.
Marche à l'amour.
Il fait de la country music, c'est une star de la country.
Non.
Ah non, il a appris la batterie, le piano, la guitare, il écrivait ses chansons.
Il a joué dans Columbo ou pas?
Ah non.
Il a joué dans Columbo.
Ouais. Il a beaucoup voyagé, il a vécu à Cuba à une époque, à La Havane, vous voyez. On peut réécouter encore un peu, c'est sympa.
Vous êtes sûr qu'on connaît son nom?
Ah ben oui. C'est ça la question, voyez-vous.
Il revient pas qu'on le connaît.
Non mais la chanson dit quelque chose, c'est sûr, mais...
La chanson était
mais le chanteur.
Julie, combien de fois vous avez dû annoncer ça à l'époque à Europe 1?
100 fois, j'en sais rien.
Elle se rappelle de la montre Seiko à quartz.
Elle se souvient de la montre.
À ma montre Seiko à quartz, il est 18h.
Vous venez d'écouter I Can Help. Mettez-vous en situation, Julie.
Alors,
faites-le.
I Can Help.
On va baisser le truc.
Attendez. Des annonces.
Mettez-le en gros, voilà, puis on va le baisser doucement, ça va lui revenir. Il faut faire ça avec les malades.
Il faudrait lui mettre du bleu, il y a trop de
quand
rouge.
Quand je fais signe à la régie, ça va s'éteindre doucement, et là, vous désannoncez, ça va vous revenir, Julie.
C'était bien sûr I Can Help par. Par son interprète.
Laurent, le mec est très très célèbre.
Oh, mais attends.
Ah bah,
il a fait que ça.
Oh, mais alors attendez, on peut pas trouver.
Mais si.
Comment ça, on peut pas trouver?
Moi, je connais pas les mecs qui ont fait qu'un tube.
Mais si, les besoin de rien, envie de toi.
Les grosses têtes, c'est pas fait pour trouver le nom de Patrick Bruel, vous voyez, c'est fait.
Il a fait plusieurs tubes.
Est-ce qu'il a un prénom américain?
Il a un prénom américain et.
Gary?
Et il a un nom qui peut être traduit en français, d'ailleurs.
Ah, ça veut dire quelque chose.
Oui, d'accord. C'est un animal.
Renard, non.
Est-ce que
Dog.
Un animal poilu?
C'est Fiche, le nom de famille.
Pas Fiche.
Est-ce que c'est un animal, c'est un animal poilu ou pas?
Un animal poilu, non.
Un mammifère,
un oiseau.
Un oiseau.
Un bird.
Un volatile, on va dire, oui.
Une poule, chicken. Turquie.
Ah non, c'est pas Turquie.
Une dinde.
Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bête? Une autruche. Comment on dit? Autruche. En anglais.
Signe.
Où on en est pour trouver un nom?
Attends, un volatile, c'est
quoi?
Un canard, duck.
Swan. Non.
Alors,
Patrick Swan.
Alors, pas Patrick.
Je l'ai dit, Swan.
Jimmy Swan.
Comment?
Non, Jim Swan.
Willy Jimmy. Swan.
Johnny Swan.
Willy.
John Swan.
John Willy Swan.
Patrick Swan.
Patrick Swayze.
Paul Swan.
Ah, comment?
Billy Swan.
Billy Swan. Oh. Bonne réponse de Julie Leclerc.
C'était Billy Swan.
Attendez, on va vous laisser faire la des annonces, Julie, mais on laisse un peu courir la chanson.
Merci d'écouter RTL, c'est le hit parade hebdomadaire de notre station. Et c'était le numéro 17 dans ce classement des 50 tubes de l'année. C'était donc Billy Swan et I Can Help.
Quelle mémoire.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour s'appelle Pollution. C'est un roman chez Albin Michel, un roman signé Tom Conan. C'est son deuxième roman. On parlera avec lui dans un instant. Et le héros de son roman part, quitte Paris. On est à l'époque de la pandémie et il est au chômage partiel. Et il se dit autant quitter la ville, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs pendant cette période, pour pratiquer ce qu'on appelle le woofing. Mais qu'est-ce que le woofing?
C'est quand on va travailler dans les fermes, en étant logé, nourri.
Excellente réponse de Valérie Trierweiler.
Mais c'est un kibbutz.
Moi, je peux vous dire même à quoi ça correspond.
Allez-y.
C'est le World Wide Organic Farm Organization.
Exact, bravo. Effectivement, c'est un acronyme WWOOF, World Wide Opportunities in Organic Farms, le woofing. Bonjour Tom Conan.
Bonjour à tous.
Ils ont été assez rapides, mes camarades, je dois dire, pour trouver ce que c'était que ce woofing.
Bah oui, je croyais que ça avait un rapport avec les chiens, moi.
Ah non, pas du tout, non. Et, oui. Et votre héros, votre personnage principal, effectivement, décide en pleine pandémie, parce que bon, on lui propose d'être au chômage partiel, autant quitter Paris, ouais. Et il va du côté de Cherbourg, dans le Cotentin, voilà. dans une ferme biologique, donc.
Ouais. Voilà, c'est ça, parce que donc, en fait, il pète un peu un câble dans l'environnement urbain qui est le sien. Il vit dans un tout petit studio à Porte-de-la-Chapelle et donc en plus il est mis en chômage partiel par sa boîte parce que voilà, contexte de pandémie, donc il a plus trop d'avenir dans sa boîte, dans sa vie d'avant, et donc il dit pourquoi pas aller partir faire une aventure à la campagne. Et donc il part effectivement sur le site de woofing, effectivement, que vous avez rappelé, qui est en fait la meilleure manière, en tout cas la plus simple aujourd'hui, pour pouvoir être hébergé
gratos.
Vous l'avez fait, vous?
Alors moi, je voulais vraiment le faire, effectivement, mais il se trouve qu'après, pendant la pandémie, c'était super compliqué pour eux d'accueillir des nouvelles personnes. Donc j'ai pas pu le faire concrètement, mais je me suis beaucoup renseigné et je trouvais que c'est une expérience hyper intéressante. Je compte peut-être le faire peut-être maintenant. Et j'ai pas mal de
Attendez de voir si votre livre a du succès déjà. Votre premier livre avait très très bien marché. Vous êtes très jeune, il faut dire. Vous avez 26 ans, c'est ça, Tom Conan?
Voilà. Ouais, j'avais sorti Radical effectivement il y a un peu plus d'un an sur deux homos au parcours assez contradictoire qui se rencontraient, un de gauche et un d'extrême droite.
Je connais plein de gens au Rassemblement National qui sont dans cette situation.
Ça s'appelle le Fion National.
Votre premier roman Radical avait très bien marché, c'est votre deuxième que vous confiez effectivement à Albin Michel. Et donc, ce garçon qui part faire du woofing va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Iris, assez chaude, hein, je dois dire. Il y a aussi des scènes de sexe dans le livre.
À la campagne.
Iris, c'est une autre personne qui vient faire du woofing avec lui, qui est stagiaire en galerie d'art à Paris. Donc elle part effectivement aussi, elle rejoint Alex qui est le fermier en fait sur place. Donc,
mais elle est short, Iris, hein.
Voilà, Iris, elle en fait, elle y va plus pour des raisons un peu instrumentales. Elle veut créer une chaîne Instagram, créer une chaîne YouTube, et donc elle y va un peu aussi pour de mauvaises raisons. Et c'est ça qui va rendre aussi l'histoire assez chaude, effectivement, les deux personnages.
Sauf qu'ils vont effectivement découvrir, je vous interromps un peu, parce qu'il faut aller à l'essentiel. Ils vont quand même découvrir, on croit quand on va à la campagne que tout est naturel, tout est sain, tout va bien, surtout dans une ferme biologique, mais c'est parfois plus pollué que dans les grandes villes, et ils vont découvrir un vrai problème sanitaire et environnemental.
En fait, ils vont découvrir qu'il n'y a pas vraiment de refus, de sanctuaire possible, y compris quand on va à la pointe du Cotentin, qui est pourtant très haut quand on regarde la météo à la télévision. Mais effectivement, là-bas, on voit qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires, il y a pas mal de pollution, et donc il y a des vaches après sur place, effectivement, dans la ferme, qui vont tomber malades et qui vont pas mal effrayer le groupe de bouffeurs.
Ils vont dénoncer ça, évidemment, on va pas raconter suite. Il y a un passage amusant, parce que je trouve que vous décrivez drôlement bien ce qu'on a pu vivre. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux, encore que on est encore avec des masques à l'intérieur, et parfois, certains qui ont peur, et je peux comprendre, continuent à porter le masque à l'extérieur, mais à l'époque, on était tous obligés de le faire, de toute façon. Et vous expliquez que c'est vrai que autant à Paris, ça vous paraissait normal, autant à Cherbourg, c'est un peu plus... alors, c'est pas vous, mais c'est le personnage, évidemment, que vous racontez. Il dit, même dans ce trou, on percevait une sorte de suspicion. Et pas seulement lorsqu'on allait faire des courses du côté de Cherbourg. Les personnes plus âgées ressentaient une certaine inquiétude et se déplaçaient avec une prudence qu'on ne pouvait qu'approuver. Mais les autres n'étaient pas en reste. En dehors des très jeunes, qui se savaient parfois avec excès hors de danger, tous les autres avaient intégré le nouveau paradigme qui colonisait désormais notre quotidien. Les réunions familiales ou entre amis étaient limitées. Les les voyages se voyaient prohibés et un grand nombre de situations pourtant dénuées de risques suscitaient une sorte de méfiance excessive qui confinait à la paranoïa. Ainsi, même à l'extérieur, en l'absence de tout rassemblement et avec le putain de masque qui nous obstruait la gueule, des gens continuaient à se regarder en chien de faïence comme si la mort allait s'abattre sur eux dans la minute. La folie collective emplissait les âmes et chacun pratiquait l'excès de zèle pour plaire à on ne sait qui. C'est bien écrit et c'est vraiment l'ambiance qu'on pouvait vivre à cette époque.
Mais oui, en fait, je trouve qu'en fait, depuis, il y a quand même eu aussi une espèce de volonté un peu de contrebalancer ça de manière un peu extrême. Moi, par exemple, je vois beaucoup autour de moi qui sont allés en boîte quand c'était encore ouvert, de manière très systématique, presque toutes les semaines. Moi, j'y allais beaucoup énormément parce qu'on voulait un peu rattraper le temps perdu et justement toucher ses corps, voir ses visages, embrasser, etc.
Arrêtez, vous avez commencé à nous exciter.
C'est peut-être le but. Hein.
Non, mais vous avez raison.
Pourquoi faire des phrases de 20 minutes? Vous ne pouvez pas parler d'une façon de ramasser.
C'est le défaut des auteurs.
C'est assez drôle parce que j'ai regardé, avant de préparer cet entretien avec vous, téléphonique, j'ai regardé la vidéo où vous résumez votre livre sur YouTube. Et alors, le résumé, je crois que j'aurais eu le temps de lire le livre.
Ça fait 10 minutes, c'est vrai que j'ai toujours du mal à être un peu...
Non, c'est faux parce que il y a quand même plus de 300 pages de ce roman passionnant, un roman contemporain écrit par une jeune plume avec beaucoup de talent. Ça s'appelle Pollution et c'est chez un grand éditeur, Albin Michel. Merci Tom Conan, c'était le livre du jour.
Conan le Barba.
Une question zoologique pour monsieur Bastien, madame Florent. Colette Carrera qui habite Marly dans le Nord. Si vous croisez un mammouth bronzé, qu'est-ce que c'est?
C'est un mammouth qui a pris le soleil.
Enfin, mammouth bronzé. Un insecte.
Ce n'est pas un insecte.
C'est Guélard.
Un
oiseau.
C'est
Guélard.
Ah, c'est pas Jacques Guélard.
Ça marche.
C'est un mammifère.
Ni Bernard Montiel.
Ni Bernard Montiel.
Un singe. C'est un singe.
Ce n'est pas un singe, le mammouth.
Est-ce que c'est un mammifère?
Alors, ce n'est pas un mammifère.
C'est un oiseau.
Un oiseau.
C'est un oiseau, oui. Et c'est en Amérique, qu'on trouve généralement.
Un perroquet.
Le mammouth bronzé.
Un jabiru?
Non, non.
En Amérique du Sud ou du Nord?
Est-ce que c'est dans les rapaces?
Ah, mais c'est facile.
Oui.
C'est l'oiseau canadien.
Ah, non, non, non.
L'oiseau canadien.
Qu'est-ce que vous appelez l'oiseau canadien?
C'est quoi?
C'est la drogue voisine?
Oh non, mais comment?
Elle a fait aussi en voisine?
C'est un faucon? C'est pas le pigargue?
Oh, on parle jamais de faucon ici, j'en prends que des vrais.
Est-ce que c'est un rapace?
Non, 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 je confonds avec le caribou.
Laurent, c'est un rapace?
Oui,
qui n'est pas un oiseau.
Hein, alors, un rapace, non, c'est pas un rapace.
Est-ce que c'est comestible?
Alors oui, c'est comme...
C'est un éder?
C'est une poule?
Alors,
une dinde?
Oui, hein.
Un dindon.
Le dindon bronzé d'Amérique ou le mammouth bronzé. Bonne réponse de Laurent Baffi.
Alors le dindon bronzé, dans certains films, on en voit.
C'est dindon.
Vous ne connaissiez pas le mammouth bronzé?
Non, pas du tout.
Ah bah, je suis content, mais je ne vous ai pas pour autant piégé. Vous l'avez retrouvé.
Vous avez trouvé ça où? Vous regardiez quoi comme programme l'année dernière?
Pour tomber sur un dindon bronzé.
Vous êtes tombé sur
quoi? Je regardais des photos de vacances avec vous et paf.
C'est pas moi, je bronze pas.
pas du dindon.
J'ai quand même vu votre dindon. Ah, j'ai vu le dindon du mammouth, crois-moi. Le dindon bronzé d'Amérique est effectivement... Alors, c'est un dindon qui a été introduit...
Donc, c'est Caroline.
depuis l'Europe. Hein. Au départ, ça vient de race française.
Ah.
Et évidemment, on a augmenté leur taille, on a croisé des espèces... Qu'est-ce que vous dites, vous?
Il fait le dindon. Et le dindon bronzé, ça fait quoi comme ça?
C'est la plus lourde, c'est pour ça qu'on l'appelle le mammouth. Hein. C'est la plus lourde des volailles domestiques.
Non, c'est Julie, vous confondez.
Alors attendez.
Non, mais c'est une race de grande taille, appréciée pour sa viande et ses œufs.
Ça fait combien de kilos?
Alors écoutez, j'ai pas.
Soyez précis.
Ah oui, ça, écoutez, de 13 à 17 kilos, vous voyez le dindon.
Mais est-ce qu'on le mange à Noël?
Une première question zoologique, en voici une deuxième pour monsieur Baffier aussi. Pour monsieur Paul Aycarat, les autres
surtout
continuer à se
reposer. Et nous, on fait quoi, nous?
Bah, parce qu'il s'agit de retrouver un oiseau qui regroupe deux espèces actuelles et dont le nom vient d'une figure mythologique grecque, puisque le nom de cet oiseau correspond à l'épouse de Cronos et à la mère de Zeus.
L'Omicron.
Les Réa.
Les Réa. Excellente réponse de Paul Aycarat.
Réa.
Eh oui. Alors les réas ne peuvent pas voler, vous le saviez peut-être.
Ils sont à terre, oui.
Eh oui, ils sont à terre.
Non, à terre.
À terre. Ah, oui,
bah. Ils sont à terre.
Comme le kiwi.
Ils peuvent pas voler, comme ils sont à terre aussi, vous voyez. À
comme
terre et à terre si vous voulez. Et ils viennent de des espèces de nandous. Vous connaissez
oui,
les nandous?
Oui, bah c'est un ratite aussi, c'est une sorte d'autruche.
Les nandous, les outardes, les autruches, les émeus.
Voilà.
Ah, les émeus.
Alors, les émeus.
Les casoars aussi.
Alors là, les casoars.
J'aimerais que vous me disiez de quel animal il s'agit aussi, qu'on surnomme parfois le bibite à patate.
Bibite, le c'est un oiseau.
Bibit. C'est pas un oiseau.
Le quoi, le bibite?
C'est pas le fameux oiseau.
Le redite, redite.
Mais c'est un bibite.
Les bibites à patate.
Un poisson.
Pas papate, à patate.
Alors, bibite, c'est un insecte.
Les doryphores.
Les doryphores. Excellente réponse.
Bravo.
Mais... Elle en a connu des bitites à patates.
De Julie, ah, patate.
Il y a patate.
Ah ben oui,
parce que ça bouffait les cultures.
Parce qu'il décime les cultures de patates.
Exactement. Alors une autre question, la troisième question zoologique. Je sens que vous aimez ça finalement, les questions zoologiques.
C'est notre passion.
Après le réa, la bibite à patates, le mammouth bronzé. Je vais maintenant...
On dirait une émission codée.
J'entends
attention, le bibite à patates.
Parle au mammouth bronzé.
Parle au moumoute bronzé.
Mammouth.
Je vais vous demander quel animal pupute.
Pupute.
Ah, c'est un oiseau.
Pupute. C'est son cri.
C'est un oiseau.
Quel animal pupute.
C'est un renard.
Stevie pupute un peu.
Laurent, c'est un oiseau, on est d'accord.
Alors, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Quel animal pupute.
L'alouette. C'est un oiseau qui est en France.
Alouette.
Alouette, non.
Dans les fermes.
La mésange.
Ah, la mésange.
Non, mais est-ce qu'il pupute quand il vole?
L'alouette aussi.
Pas tout le monde en même temps, même Trevailer, qui, il faut le dire, a parfois été surnommé ainsi.
Quoi?
Non.
Ils n'avaient jamais doublé la première console.
Non, non. Elle a peut-être ainsi surnommé certaines.
J'ai oublié ma question.
Non, elle a peut-être ainsi surnommé certaines de ses rivales.
Pardon, Valérie. Ben oui, vous êtes traité de pupute avec.
C'est un oiseau qui se mange.
Malon.
Ah non, ça ne se mange.
C'est pas la grippe.
Cette grosse pupute de Trier-Villers qui m'a piqué mon François.
C'est vrai?
Ah oui, mon François. C'est sûr qu'il avait le mammouth bronzé. Alors. Non, si le mammouth était à l'intérieur,
il le rossignol.
Ah non, le rossignol.
Rouge-gorge.
Non.
Le colibri.
Non.
Il y en a en France?
Alors, il y en a en France, oui, oui, oui. Ah, c'est joli, là, j'en vois, je regarde les photos. Là.
Vous pouvez me la montrer juste?
Ah, non, non, non.
Voir
non,
si
non,
je
non,
trouve.
Plus gros qu'un
le jet.
Ah, le jet, non.
Dans le jet, il jacule.
Il jacule.
Ouais, c'est ce que je trouve.
Ah, voilà. Eh ben voilà.
Bon, le petit moineau.
Le jet jacule.
Est-ce que c'est un gros oiseau?
Ah, Laurent, c'est pas un rapace.
C'est pas un rapace, non.
C'est un oiseau qui vole.
Ah oui, il vole, ouais, ouais, ouais.
C'est un oiseau qu'on chasse?
Non.
Bah non, il mange pas.
Attendez, on le chasse pas, on le mange pas.
La tourterelle.
Alors, au départ, on en trouvait sur l'île de Sainte-Hélène, et puis, c'est revenu jusque chez nous.
C'est un oiseau corse?
La mouette.
La mouette, non.
Est-ce que ça vit dans les zones arctiques?
Ah oui, non.
Les corneilles.
Non, plutôt dans les pays chauds.
C'est à quoi comme couleur?
Ah, ça, alors là, j'en vois un jaune avec des bandes noires.
Est-ce que c'est un perroquet, un hara?
Un hara.
Ah, la guêpe?
Non.
Une perruche?
Non.
Un
jacanard?
C'est un oiseau marin?
Alors, c'est un oiseau assez exigeant en termes d'habitat. Hein,
cormoran?
Le pélican.
Le pélican.
Et il veut une grande maison.
Pourquoi?
Alors, il vit surtout en Europe, en Afrique, plutôt qu'en Amérique.
Le travailleur à bec rouge?
Alors, c'est
le travailleur à bec
rouge. Un colibri?
Non, mais on le reconnaît au premier coup d'œil, hein, parce que sa couleur jaune, rousse, du plumage, les ailes et la queue noire.
Le serin,
pardon.
Le guépier.
Et puis c'est surtout ce qu'il a sur la tête qui.
D'ailleurs... Ah, le fascia huppé.
Non.
Ah, on dirait. Pourquoi?
Le fascia huppé.
Là.
La huppe.
La huppe. Bonne réponse. La huppe Laurent Baffier. C'est la huppe.
Vous voulez dire que si j'ai bien compris, que je comprenne bien, la huppe. Pupute.
La huppe pupute.
Mais c'est la huppe faciée.
Alors ça, que lui, il pipipe.
Hourra.
Bien sûr. Pupute.
Bien sûr.
Le huppe pipipe, la huppe pupute. On en apprend des trucs aux grosses têtes. Allez, une question pour Paul Elkarat et pour leur chicon qui habite Versailles. Quand je dis
bon, alors vraiment, nous, on peut se barrer, hein.
Oh, écoutez, je vous ai posé des questions sur les variétés.
Mais attendez, sur les variétés de 74, je suis né en 77, c'est difficile quand même.
Ne me dites pas que vous connaissez pas les vieilleries.
Mais il faut savoir qu'avant l'histoire, ma passion, c'était les animaux et les plantes.
Hein. Eh ben, voyez, il y en a pour tout le monde.
Je trouve qu'il n'y a rien pour moi.
Il y a du favoritisme.
Écoutez, j'ai pas de spécialité.
Allez, une question sur le Nutella.
Je suis désolé, l'animal qui pupute, c'était un peu pour vous aussi, Caroline. Oh là, là, je vous demande de retrouver le nom d'un savant.
Mmh. Ah, le savant de Marseille.
Ah, non. Un savant qui avait embrassé toutes les sciences, mathématiques, jurisprudence, théologie.
Le docteur Schweitzer.
Non, non.
Lavoisier.
Non.
Guillaume Baudin.
Et il sera également l'ambassadeur. Vous avez dit quoi?
Guillaume Baudin.
Pas Baudin, non.
Ah, bah, Guillaume Baudin.
Non, non, non,
Baudin.
Et alors, non, et pourquoi bon, continuez, ça ne Laurent, continuez. Pas moi
il sera également l'ambassadeur de François Ier.
Ah oui, c'est ça, c'est Guillaume son prénom.
C'est Guillaume son prénom.
Et c'est.
Non, 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 je l'ai dès le début, je l'ai dès.
C'est sûr,
dès que vous avez dit François Ier, c'était sûr.
Guillaume Baudin.
Il a mis un pain à Reichmann, il a encore la trace.
Non, tu devrais avoir honte.
Mais c'est pas possible.
Guillaume Baudouin.
Non. Non. 1467-1540.
Oui, mais c'est Guillaume.
Et c'est Guillaume.
Budin.
Non.
Est-ce que ça commence à
projeter
Buzyn. Agnès Buzyn.
Non, Guillaume.
Bulin.
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 Non.
Budoumain.
Non. Burin. Budin. Burin.
Budin.
Botin.
Budin.
Ça commence par un B.
Boudin.
Boudin. Bidon.
Non,
Guillaume Budin.
Guillaume Bourin.
Baudins, les Baudins.
Guillaume Baudins.
Baudin.
Bibliothécaire, traducteur.
Non, essayez, je l'ai. Guillaume Budet.
Exact, Guillaume Budet. Ah, ouf.
Mais oui, le Budet, c'est un dictionnaire.
Un peu plus, c'est suicidaire, là.
Hein. Mais non, mais déjà, Critique la Bretonne, alors que je l'étudie.
Non, mais il était pas loin depuis le début.
Guillaume Budet, bibliothécaire, traducteur, philosophe, imprimeur, érudit, effectivement, érudit du XVIe siècle et même de la fin du XVe, parce qu'il a vécu, assez vieux, quand même. Hein. Donc, je suis en train de
calculer. Comment j'ai pu passer à côté de Guillaume Budet.
Oui, parce que.
Moi, je me dis, je suis passé à côté de Guillaume Budet.
Il a dit que c'était
Budet,
vous êtes déjà mis le cul dans le budet, croyez-moi. Oh. Pour Dorothée Borger, qui habite Quincy dans le Nord, retrouverez-vous le nom de celui qui est mort à 70 ans. Je ne donne pas ni la date de naissance, ni la date de mort. Mais c'est quand il est mort à 70 ans que fut enfin publié son œuvre majeure. Œuvre majeure que, de son propre aveu, il a préféré cacher pendant 36 ans, de manière à ne pas avoir d'ennui. De qui s'agit-il?
C'était provocateur.
Mais quel siècle au moins, quel siècle?
Ah, quel siècle? Alors, non, je vais pas vous donner le siècle, ce serait trop facile.
Est-ce que c'était très célèbre?
Très célèbre.
Est-ce que c'est Jean de La Fontaine?
Ah non.
Est-ce que c'était sexuel?
Si vous trouvez le siècle, je vous le dirai, hein, mais c'est pas moi.
Le 20e siècle, Céline.
Non.
Est-ce que c'était
17e?
C'était un vieux grec.
C'est à cheval entre 15 et 16.
Oula.
Ça change.
Malherbe.
Il est né au 15e siècle et il est mort au 16e siècle.
Ah bah faut choisir, Erasme. Faut choisir, monsieur.
Pardon.
Faut choisir.
Ah bah il est à cheval, et puis il y a eu photo à l'arrivée.
Oui, mais il est à cheval, mais il a une jambe plus de quel côté?
Mais c'est un Français, du coup.
Ah, je n'ai pas dit que c'était un Français.
C'est Erasme.
C'est un Britannique.
Ah, ce n'est pas
un Britannique. C'est un Européen.
Un Européen.
Un Italien.
Un Italien, non.
C'est un Espagnol.
En fait, les frontières ont changé depuis cette époque-là. C'est jamais facile de vous répondre tout à fait correctement.
Un navigateur.
Un Corse. Elles n'ont pas changé de 1000 bornes non plus.
Attends, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que si vous voulez.
Oui, ok, c'est l'Allemagne ou la Pologne.
Voilà,
Russie.
C'est l'Empire Autriche-Hongrie.
L'Empire Autriche-Hongrie.
Je répète la question. Donc, il est mort à 70 ans. Pendant 36 ans, il a caché l'œuvre majeure qui sortira de manière posthume et évidemment une œuvre très importante.
Ah, mais ça y est,
Nietzsche,
mais ça y est, ça vient de me revenir.
Ah, mais oui!
C'est Nicolas Copernic.
Excellente réponse de Paul Elkarat.
Mais dites-moi, mourir à 70 ans au 16e siècle...
C'est son œuvre majeure sur l'héliocentrisme, comme quoi le soleil est au cœur de l'univers, et s'il l'avait sorti, il aurait eu du problème avec l'Église.
Exactement.
Il a fait exprès de ne pas le sortir.
Et oui, Copernic a évidemment eu une pensée révolutionnaire pour son époque. Il savait que sa publication serait dangereuse, et il a donc préféré, pendant 36 ans, cacher, on va dire, sa théorie. Voilà, sa théorie.
Il a bien fait.
Ses résultats, la théorie, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, de l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposé au centre de l'univers.
Alors, comment il a trouvé ça? Comment il a trouvé ça?
Ah bah, il va vous le dire, Paul, alors.
Comment il a trouvé ça?
Bah non, mais comment il l'a trouvé?
En faisant des recherches, des observations. Évidemment.
Ah ouais. Il a regardé, c'est pas
toi,
difficile.
Mais toi, en regardant, tu
vois bien quand tu regardes que c'est la
Terre. Calcul des observations.
Mais elle, tout tourne autour d'elle, donc elle peut pas se rendre.
Mais que le Soleil
tourne. Oui, c'est bien mon genre, c'est ma particularité.
Vous êtes occupé de Copernic ta mère, le groupe.
sur elle-même aussi.
C'est vrai en plus.
C'est vrai.
Sans copère.
Ah, Joëstar aussi alors.
Ouais, Joëstar aussi, je m'en rappelle de la petite blonde. Je l'ai bien retournée la meuf là. Pom 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 pom.
Vous pensez qu'il a écrit Mercedes-Benz pour qui?
Sur ma Benz.
Dans ta Benz, Benz,
Benz. Non, mais j'ai travaillé avec eux, oui.
Ah, vous avez travaillé avec NTM.
Et elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Et elle m'a mis la fièvre.
Je travaillais sur cet album sublime, d'ailleurs.
Eh ben oui.
Ouais, c'était sublime, vas-y, enculé.
C'est vrai que c'est pas loin de la manière dont tu nous parlais.
Copernic, ta mère, l'album à sortir la semaine prochaine. Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL. À nouveau la partie pour Antibes dans le cadre de la semaine Green. Sandrine Depierrieux qui est au téléphone. Bonjour Sandrine Depierrieux, pardon, j'écorche votre nom. Vous allez bien,
bonjour
Sandrine ?
Bonjour à tous.
Oh là
bonjour,
là.
Bonjour Sandrine.
Attention, pas de haut-parleur, pas de transistor comme on disait à mon époque.
Le transistor, oui, c'est ça. C'est
le terme.
Il y a trop de regarder.
Non, non, mais là, il regarde Julie, donc il dit transistor.
Et sachez que vous avez d'ores et déjà, dans le cadre de la semaine Green, chère Sandrine, gagné des graines à planter offertes par Botanique.
Vous avez un jardin?
Ah, ah oui, d'accord.
Donc, et en Rocco fait, Siffredi.
Non, malheureusement, j'ai pas de jardin.
Ah, bah, vous
si
planterez dans la salle
bien,
de bain.
Pendant que j'ai eu le Covid, vous, les cadeaux ont vraiment,
non,
décliné.
Ça, elle le gagne même si elle perd.
Oui,
ah oui, pardon,
le vrai cadeau, c'est un sac de terreau.
Mais pardon, ce sont des graines pour
la
faire.
La belle au terreau.
Ça fait pousser quoi, pardon?
C'est un mélange fleuri pour oiseaux, des jolies petites fleurs.
Vous avez des oiseaux?
Qui attirent les oiseaux.
Ah, bah, dans son salon, elle va être contente.
Sur votre balcon ou sur votre jardin.
Vous allez vous faire chier.
Mélange fleuri Michon.
Les graines, vous pourrez les jeter par-dessus bord tout au long de votre croisière pendant une semaine en vacances.
Sur le boat!
Sur le boat.
Oh,
le boat.
900 bateaux sans permis. Bah oui, puisque c'est la semaine green, on propose des vacances green, écolo. Rien de mieux que le rythme doux des bateaux, le boat, pour vivre plus tranquillement. Voilà.
Enfin, il y a de l'essence quand même.
En Camargue, en Bretagne, sur la Saône, sur la Charente ou sur les étangs du Languedoc, non. Vous choisirez votre base de départ. Il y a 900 bateaux sans permis. On vous donnera évidemment un petit enseignement de 20 minutes pour apprendre à piloter vous-même ce bateau.
C'est rassurant, je trouve.
Et on peut dormir dans le bateau.
Ah
hein,
bah bien sûr.
C'est un grand
bateau. C'est pour 4 pendant une semaine.
Oh, formidable.
Des vacances en famille sur le boat. Sandrine.
Esteban l'a fait. Il était très, très, très satisfait.
Ah, imagine déjà la vitesse de croisière d'Esteban en plus sur le boat.
Oui, on risquait pas l'excès de vitesse, là.
Alors, attends, qu'est-ce que vous faites dans la vie d'ailleurs, Sandrine?
Je suis dans la recherche.
Dans la recherche.
D'emploi.
Recherche d'emploi, c'est ça. C'est ça. Je voulais faire de l'humour, mais...
Commencez par chercher la grosse tête qui, à votre avis, connaît le mieux les noms qui ont fait l'actualité ces jours ou ces semaines dernières.
Alors, je vais choisir Valérie Traveller.
Allez, c'est la journaliste, vous avez raison.
Non, mais il y a Christophe
elle
qui est très bien.
Ses
Valérie
chances.
Est très bien aussi.
Mais vous avez toutes vos chances avec Valérie Traveller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite éliminer Beaugrand, comme ça, on sera tranquille, Sandrine, vous êtes d'accord?
C'est agréable. Bon, écoutez, je vais faire ce que je peux pour être nul, Sandrine.
Alors, monsieur Beaugrand.
Non, t'as fait un effort. Mais je pense que t'as pas besoin de forcer.
Regardez comme il est méchant.
Beaugrand, qui est, cher Christophe? Charles Duboulos.
Ben, c'est mon copain d'enfance, en maternelle, à l'école, mais je me rappelle, à l'école Charles Perrault à Villebon-sur-Yvette. Et comment il va, Charles Duboulos, alors?
Ah ben, écoutez, il vient de réaliser quelque chose d'assez formidable.
Ah ben oui, il a dû traverser l'Atlantique à la nage.
Non, il a gravi la face nord des Grandes Jorasses.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un alpiniste.
Oui, il a fait Julie par la face nord.
Je ne connaissais pas, monsieur Duboulos.
Et vous êtes éliminé.
C'est où les Grandes Jorasses?
Monsieur Paul Alcarat, c'est le Mont Blanc?
C'est le deuxième plus haut sommet de France après le Mont Blanc.
Eh ben voilà.
Dans les Alpes.
Et ouais, dans
les Grandes Jorasses. Ouais. Attendez, on m'en a jamais parlé.
J'ai jamais entendu les Grandes Jorasses.
C'est un alpiniste, en tout cas, monsieur Duboulos.
Les Jorasses, c'est connu.
Vous êtes éliminé, Beaugrand. Julie.
Oui.
Julie Leclerc, pouvez-vous me dire...
Qui est le maréchal Leclerc.
Non. Pouvez-vous me dire, ma chère Julie, qui est Perrine Lafont?
Bibliothécaire.
Oui.
À Avignon.
Ah oui, je sais, il n'y a pas une fille qui reste plus à l'intérieur qu'elle.
C'est une championne olympique et quadruple championne du monde en ski de bosse. Oui. Julie, vous êtes éliminée. Monsieur Paul Alcarat, qui est Élodie Fontan.
Ah, je sais, moi. Moi aussi,
Élodie
je sais.
Élodie Fontan, c'est la compagne de Philippe Lachaud. Il joue dans plusieurs films de son compagnon et là elle va jouer
qu'est-ce qu'on a porté
au bon Dieu aussi
ou super-héros vous la connaissez deux. Vous restez dans la course bravo
oui mais c'était facile
oh non C'était pas si facile.
Oh, vous rigolez, non, Élodie Fontan.
Tout le monde ne connaît pas Élodie Fontan. Non.
Ouais, monsieur.
Monsieur Beaugrand.
C'est truqué.
Par contre, tout le monde connaît les alpinistes qui ont fait les grandes choses. Enfin, voilà, quoi.
Valérie Trierweiler.
Oui.
Pouvez-vous me dire, chère Valérie, qui est Victor Castanet?
Ah bah oui.
Oui, Victor Castanet, c'est celui qui a écrit le livre sur les EHPAD.
Exact, le journaliste.
Qui a dénoncé le scandale.
Publié les fossoyeurs chez Fayard.
Il a refusé 15 000 euros.
Non, 15 millions.
Il a refusé 15 000 euros.
15 millions d'euros.
15 millions.
Moi, j'aurais dit oui.
Moi aussi. Ouais.
Monsieur Baffy, c'est à vous. Pouvez-vous me dire, monsieur Baffy, qui est Mathieu Jalibert?
C'est un sportif.
Un sportif, oui.
Jalibert.
Tu peux préciser ou tu veux rester dans
le... C'est un cycliste.
C'est Jalibert.
Avec une faute.
Alors que Jalibert, c'est un rugbyman. Demi d'ouverture de Bordeaux et aussi, évidemment, il est dans le 15 de France. Pour le tournoi à destination, vous êtes éliminé.
15 de France, allez, petit.
Caroline Diamant. Vous êtes prête, Caroline?
Oui.
Qui est Natacha Calestrémé.
Natacha Calestrémé, oui, c'est une joueuse de tennis.
Pas du tout, c'est une journaliste écrivaine. Deuxième et même quatrième dans tous les classements des ventes de livres.
Je crois qu'elle en est à 350
000. Elle a un homonyme, alors.
Elle écrit des best-sellers, La clé de votre énergie, Trouvez ma place dans la société.
C'est des livres à la con,
mais
là, mais ça marche.
C'est Larry Cazarai du 21e siècle.
Voilà. Elle peut s'acheter un appart, elle peut arrêter de bosser.
La deuxième vie commence quand tu découvres, quand tu comprends.
Elle est deuxième et quatrième des ventes avec deux livres différents.
Et elle était première et deuxième aussi.
Il me reste en magasin, vous l'aurez bien compris, Sandrine, pour gagner votre séjour sur le boat, monsieur Paul Carat et madame Valérie Trierweiler. Pour l'instant.
Donc il faut éliminer Paul.
C'est bon pour vous, Sandrine.
Très dur.
Bon. Ah oui, je.
Laurent, trouvez.
Je croise les doigts, allez-y, Valérie. Trouvez
une solution. Non, mais en fait, c'est Paul d'abord.
C'est Paul.
Valérie n'aura peut-être rien à faire si je réussis.
Ah oui, c'est vrai, en plus.
Réussis à éliminer Paul Carat.
C'est pas de bol quand même pour vous que. Que la personne à éliminer soit Paul, c'est pas facile. Hein.
Bah, il suffit qu'il me donne un truc.
Je vais essayer avec Kevin Amos. Kevin, A-Y-M-O-Z.
C'est pas un politicien, lui.
Ah non, c'est pas un politicien.
C'est un sportif.
Mais ça me parle
c'est
énorme.
C'est un sportif.
Il fait du handball.
Pas du tout. Caroline Diamant aurait su vous répondre.
Parce que c'est
le quintuple champion de France de patinage artistique. Il a 24 ans. Il est aux Jeux Olympiques de Pékin. Il représente nos couleurs et la grande gagnante. Et donc, Valérie Trierweiler.
C'est vous, Sandrine.
Bravo, Sandrine.
Voilà, je suis contente pour vous.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Julie Leclerc, Christophe Beaugrand, Paul Elkarat, Caroline Diamant, Valérie Trierweiler et Laurent Baffie. Une question pour Charles Carry, qui habite Saint-Lenoble, c'est dans le Nord. Il s'agit de retrouver une femme décédée à New York d'une crise cardiaque. Je ne vous dis pas l'année, hein, je ne veux pas trop faciliter la tâche de notre ami Polo. Elle est morte à New York d'une crise cardiaque et à ses obsèques, un de ses amis a eu cette phrase formidable pour son éloge funèbre. « Avec ta mort, tu as laissé le monde un peu plus glacé qu'il n'était ». De qui s'agit-il ?
Dorothy Parker ?
Non, pas Dorothy.
Madame Picard ?
Diane Fossey ?
Elena Rubinstein ?
Elena Rubinstein, non.
En tout cas, il y a un jeu de mots avec le... Il y a un rapport avec le froid.
Frozen, la Reine des Neiges.
Non. Ça devait pas être quelqu'un d'hyper positif.
Ah, c'était pas quelqu'un d'hyper positif, on peut pas dire ça.
Elle était belle ?
Belle, c'est pas...
Elle est américaine d'origine ?
Ça n'était pas sa fonction. Non, elle n'était pas américaine d'origine.
En exil, quoi.
Elle était d'Europe de l'Est ?
Elle était naturalisée américaine. Mais elle venait d'Allemagne, exact.
Voilà, donc c'est Clara Zetkin.
Non, ce n'est pas Clara Zetkin, comme vous
la
dites.
La colonne taille.
Non, non plus.
Ah, c'est pas Elisabeth Arden.
Comment vous dites ?
Elisabeth Arden.
Ah oui, on voit bien chacun a ses priorités dans la vie, mais non. Et j'ai cru qu'elle avait donné la bonne réponse.
Alors, elle s'appelle Elisabeth.
Non. Roosevelt, ta femme de Roosevelt ?
Ce n'est pas une Elisabeth.
Est-ce qu'elle a créé une entreprise ?
C'est une Arden ? C'est une Arden ?
C'est pas une Arden.
Elle a créé une star du
cinéma. Attendez, excusez-moi, je dis Elisabeth Arden.
Oui.
Si c'est ni Elisabeth et ni Arden, pourquoi vous...
Juste pour te faire chier.
Parce qu'à un moment donné, j'ai cru... Il y a une sonorité qui m'a fait penser, mais
c'est le N ?
Non, mais
alors attendez, est-ce qu'elle avait créé, elle a créé une entreprise, une marque?
Une entreprise, une marque, non.
Mais est-ce que c'était une star?
Ah, elle est toujours
une Bette Davis.
Elle est non, une star.
Ah, mais elle est pas morte.
Non, elle est toujours une star.
C'est une artiste. Parce qu'elle est morte.
Elle est morte, je vous ai dit à New York.
Il y a quelqu'un qui a fait son éloge funèbre.
Mais au-dessus, c'est pas moi qui ai fait.
À New York, elle s'appelait Elisa, alors?
Moi, je suis con, mais j'écoute au moins.
Alors attendez, est-ce qu'on la connaît tous aujourd'hui
pour... Ah oui, oui, je vous dis, dans son domaine, star, c'est pas le mot.
Faut qu'on trouve le domaine.
On emploie le mot star plutôt au cinéma, dans la chanson, dans la musique.
C'est vrai.
Là, évidemment, dans son domaine à elle, c'est rare, mais dans son domaine, ça reste une star.
Lolo Ferrari.
Ah, Lolo Ferrari, non.
C'était pas une artiste.
Une écrivain.
C'était une designeuse.
Une écrivain.
Designeuse, non.
Mais c'est au 20e?
Oui, c'est celle qui avait... C'est l'architecte...
L'architecte Putman.
André Putman.
Non.
Mais c'est au 20e ou pas?
On est au 20e siècle, oui. Alors,
elle est née au 19e ou pas?
Lily Marlène.
Elle est née au 20e.
Est-ce que c'était une scientifique?
Alors, scientifique, c'est pas tout à fait le mot.
Est-ce que c'était la première femme cosmonaute?
Ah non.
Dereschko. Est-ce qu'elle a réalisé quelque chose d'exceptionnel?
Elle a inventé?
Ah non, elle a écrit surtout, beaucoup publié évidemment.
Une journaliste?
Journaliste aussi.
Donc, mais que 20e?
Je vais tenter un truc. Elisabeth Arden.
Barbara Cartland.
J'ai failli encore me faire piéger.
Donc il y a un truc
ça,
dans
ça
les...
Ça doit être pas loin,
Arden,
putain.
Arden. Est-ce que c'est Becky, Eden, le chose. Nom?
Non, mais c'est quelqu'un que vous connaissez tous, hein. Et en tout cas, monsieur Payet-Carat, j'en suis sûr, Valérie Trierweiler aussi.
Annette Kellerman.
Voire même, monsieur Beaugrand.
Elle a inventé quelque chose.
Non, mais je vais être vexé à la fin. Je suis
et
jamais.
Moi, alors,
quitté
je le connais.
Dans
les
mais morts, elle est morte à quel âge exactement?
Alors, elle a rencontré quelqu'un, qui, il faut le dire, était un intellectuel qui a changé, sa vie. Elle vouait une grande admiration à son maître qu'elle a rencontré à l'âge de...
Ah, un chien, c'était un chien!
Mais non! Mais son maître, c'était Heidegger, donc c'est Hannah Arendt.
Bonne réponse. Excellente réponse de Paul Elkara.
Arendt et Ardenne.
Arendt.
Et voilà pourquoi oreille...
Vous auriez pu me dire d'inverser.
Ah, mon oreille a vibré.
Oui, exilé à cause du nazisme et Heidegger qui était en plus pro-nazi.
Exactement, c'était son maître Heidegger. Ils avaient 17 ans de différence. Mais il n'empêche qu'elle avouait une grande admiration pour Heidegger. Hannah Arendt, elle est morte à New York en 1975, politologue, philosophe, journaliste allemande, naturalisée américaine, et on lui doit évidemment de nombreux ouvrages sur le totalitarisme.
Il n'y a pas eu un biopic récemment d'Hannah Arendt?
Non, mais il y a une pièce de théâtre qui se joue, non, à Paris.
Laurent, elle confond avec Tina Arena. C'est pas grave.
Allez, plus haut.
Pour Monsieur Maillère, une question. Monsieur Maillère habite Orsay dans l'Essonne.
Ah, c'est très bien.
Lui aussi, 300 euros.
C'est au lycée Orsay.
Et j'aimerais que vous retrouviez le nom de cet endroit dont il ne reste aucune trace visible aujourd'hui à Paris.
Mon cerveau.
Oh,
la culotte.
Donc c'était à 150 mètres de l'actuelle place du colonel Fabien, vous voyez. Et c'est quelque chose qui a fonctionné jusqu'au début du 11e siècle.
Oula.
Jusque sous le règne de Louis XIII. Un endroit où il ne faisait pas bon être envoyé.
La cour des miracles?
Non.
Le
non.
Clos prison. Maximin.
Donc,
une prison.
Une prison, non.
Là où on était écartelé.
Alors, le JB de Montfaucon.
Le JB de Montfaucon. Excellent. Alors, réponse.
Non, mais moi, j'applaudis pas.
S'il vous plaît. Excusez-moi. Parce que la cour des miracles et le JB de Montfaucon, on en parle dans Angélique. J'aurais dû trouver.
Ah, chacun ses références, hein.
Oui, non, mais c'est bien.
L'autre, elle se masturbait devant Robert Hossein et elle continue à nous emmerder.
Oui, en effet, je vous confirme, c'était pas bon d'y être envoyé. On pouvait pendre jusqu'à 17 personnes sur
exactement.
En même temps,
les condamnés
à l'extérieur de Paris.
Les condamnés à mort devaient monter jusque cette butte, donc dans Paris, à 150 mètres de l'actuelle place du colonel Fabien. C'était la butte de Montfaucon à l'époque, et c'était le plus grand gibet des rois de France, avec des fourches patibulaires, paraît-il. Et alors, si la corde cassait lors de l'exécution,
il n'y a pas de chance.
Vous étiez gracié.
Ou si une femme vous réclamait pour époux sur le parcours du supplice, vous pouviez être gracié.
Ah, mais dis donc. On va l'épouser, bien sûr.
Il y a un écrivain célèbre qui aurait dû y aller avant qu'il disparaisse totalement, c'est François Villon.
Ah, c'est vrai.
C'est pour ça qu'il a écrit La Baleine
Défendue. Ah oui, Pénélope lui a dit
parce qu'il était condamné à mort et il a écrit
quelque chose. Non, mais pas François Villon.
Villon. Villon. On est au 15e.
Ça m'étonne. Pénélope, lui.
Ben oui, je croyais.
La butte de Montfaucon se situait au nord-est de Paris, vous voyez, pas loin du canal Saint-Martin, évidemment.
Ah oui, aujourd'hui, ça change.
Et aujourd'hui,
c'est le canal de l'urètre.
Du colonel Fabien. Bravo pour cette excellente réponse, le JB de Montfaucon.
Bravo, Paul.
Il est trop fort. Ben, en fait, je croyais que c'était quelqu'un, Montfaucon.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Jean-Marc est à Quesnoy-sur-Dole, dans le Nord. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Jean-Marc.
Et comment il va, Jeff Panacloc?
Oh non, arrête.
Le succès de Jeff Panacloc hein, sur les enfants, vous voyez. Enfin, sur.
Non, ça c'est Jean-Luc Lahaye, ça, monsieur.
Oh non.
Pas pareil.
Quel temps fait-il à Quesnoy-sur-Dole, Jean-Marc?
Ah ben on a le temps du Nord, hein, du vent, du temps gris, un peu de pluie. Ah,
c'est terrible. Écoutez, c'est la semaine green sur les antennes du groupe M6, ah. Et vous allez pouvoir jeter des graines aux oiseaux.
Bien. Jeter
j'ai l'impression de devenir Gérard Lenormand.
Non, c'est...
Oui, mais il parle aux oiseaux,
ah, oui.
Aux arbres et aux ruisseaux. Je chante très mal.
Non, c'est bien.
Le pauvre Gérard, il a dû se retourner dans sa tombe.
Un mélange fleuri pour oiseaux, des jolies petites fleurs qui atterriront peut-être dans votre jardin ou sur votre balcon.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça donne des couleurs.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Marc?
Alors, je suis retraité de la fonction publique.
Mais vous n'avez jamais travaillé.
Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Dans quelle administration travailliez-vous?
Alors, je travaillais dans une mairie.
Ah oui.
Alors, au départ, j'ai été pendant 28 ans au cabinet du maire.
Ah oui.
Quand il criait aïe, vous alliez l'essuyer.
Oh non.
Non.
Et puis après, ils ont ouvert une cellule pour faire les passeports, les cartes d'identité.
Ah bah, vous êtes resté dans les papiers.
Les papiers, voilà.
Et donc, j'ai fini ma carrière, là, pendant 10 ans. Là. Ah oui.
Écoutez, vous allez peut-être profiter de votre retraite au moins une semaine dans un club bel en bras, Jean-Marc.
Ah, ce serait bien.
Je vous propose un séjour d'une semaine dans le plus bel en bras du monde. Vous rendez compte.
Oh, quel jeu de mots.
Oh là là, jeu de mots.
50 clubs.
Échangistes.
Non, dans les plus beaux endroits de France.
Je pense qu'on a une très mauvaise influence sur Paul.
Oui. Ah, ouais.
Franchement, je sais
pas comment il va terminer. Hein.
Ce qui est dommage, c'est que ça marche pas dans l'autre sens.
Oui, c'est vrai.
Hein.
C'est vrai.
Vous avez remarqué?
Oui.
Autant on le rend con, mais il nous rend pas intelligent.
Son intelligence n'est pas contagieuse.
Je t'ai déjà dit que t'étais déjà con et j'ai pas besoin d'être là. Hein.
Le numéro 1 des clubs vacances en France pour flâner, se balader, se ressourcer. Il y a forcément un club bel en bras idéal que vous aimerez. Valeur du séjour 2000 euros pour vous, Jean-Marc.
Si vous gagnez, Jean-Marc. Si vous perdez, c'est le JB de Montfaucon.
Alors attends. Il faut bien écouter les grosses têtes du jour. Il s'agit pas d'informations d'actualité, mais un moment de leur parcours, de leur CV, de leur vie. Mais si vous les connaissez bien, vous saurez retrouver qui dit la vérité et qui ment. Une seule personne va vous dire la vérité. Les autres vont mentir.
D'accord.
Commençons par Julie Leclerc.
J'ai tellement donné l'heure à la radio que désormais on verra mon visage en fond des montres RTL.
C'est la première affirmation. Christophe Beaugrand.
Si je prends aussi bien l'accent belge, c'est parce que je suis le cousin par alliance de Plastic Bertrand.
Ah. Vrai ou faux, évidemment, réfléchissez bien Jean-Marc. Valérie Traveiller.
Alors, comme je suis aux grosses têtes, l'équipe de Christiane Taubira m'a contacté pour essayer de lui faire comprendre l'humour. J'ai refusé. Trop de boulot.
C'est vrai qu'elle n'est pas rigolote.
Et c'est vrai qu'elle a la grosse tête.
Laurent Baffi.
C'est moi qui ai trouvé le slogan présidentiel du parti animaliste « Défendons les bêtes, mais ne soutenons pas les cons ».
Caroline Diamant.
La semaine dernière, j'ai été invitée aux 75 ans de Michel Sardou. C'est moi qui suis sortie du gâteau en chantant « Femme des années 80
». Imagine le gâteau.
Il a dû être déçu.
Mais Paul Elkarat.
Paul, pour terminer.
Oui, j'ai pris un ancien candidat de télé-réalité comme manager. Intellectuellement, ça fait une moyenne. Et en plus, c'est vrai.
Non. Non, mais... Mais tu l'es con.
Non, mais la première
candidature. Il est mignon.
Voilà.
Quand je vous dis qu'on a une mauvaise influence,
l'intelligence ne l'est pas.
C'est l'innocence de la jeunesse.
Non, mais la connerie est contagieuse.
Alors, Jean-Marc, à votre avis.
Alors, c'est dur, hein.
Mais il y a du vrai dans tout le monde.
Et Laurent Baffy.
Alors attention, vous avez eu un indice il y a quelques instants quand même.
Alors allez-y Laurent, est-ce que
Jean-Marc,
vous pouvez répéter?
Jean-Marc, vous n'avez pas entendu Paul?
Non.
Ah, ah ouais.
Quel dommage.
C'est dommage.
Jean-Marc, alors vous voudrez réentendre Laurent Baffy.
C'est moi qui ai trouvé le slogan présidentiel du parti animaliste, défendons les bêtes mais ne soutenons pas les cons.
Ah d'accord. Ben je vais pencher pour Christophe Beaugrand.
Oh. Le cousin de Plastique Bertrand. Est-ce que vous êtes le cousin de Plastique Bertrand, Christophe?
Plastique Bertrand, c'est pas lui qui chante.
Je suis désolé, pas du tout.
Mais non, mais vous n'avez pas entendu, Jean-Marc. En plus, il vous a donné la réponse.
Ah ouais, Paul. Il y a Paul qui a dit, et en plus, c'est vrai.
Et en plus, c'est vrai. Effectivement, le manager de Paul Elkarat est un ancien candidat de télé-réalité, Jean-Marc.
Ah, ben, je savais pas.
Non, mais ce qui est faux, c'est que ça fait pas une moyenne.
Mais le pire, c'est qu'il vous l'a dit. Il a dit, en plus, c'est vrai.
Mais la première phrase est vraie, mais la deuxième, c'est... Non, ce serait méchant de dire ça.
Les candidats de télé-réalité ne sont pas toujours aussi cons.
C'est de l'ironie,
oui,
bien sûr. Mais c'est la vérité, en tout cas.
Oui, bah, la première partie.
Il était dans quelle télé-réalité?
Il a fait la Star Academy avec Grégory Lemarchand.
Et voilà, comment il s'appelle, votre manager?
Johan Leprel.
Mathieu Johan, qui était un chanteur, donc.
Exactement.
Voilà, le chanteur de la Starac est devenu manager de Paul Elkarat. On est désolé, Jean-Marc.
C'est pas
désolé.
Grave.
Ah oui, il pouvait pas aider plus.
À l'étoile mystérieuse, au coup de midi.
Voilà, c'est ça. Et avant, c'était Jean-Luc Reichmann, mon manager.
Eh ben, Jean-Marc, vous allez recevoir une montre. Le mec n'a rien compris. Vous allez recevoir une montre RTL. Et là, Jean-Marc dit, ah bah oui, avec la tête de Julie Leclerc.
Et vous allez avoir des graines aussi.
On vous embrasse quand même et on vous envoie la montre, Jean-Marc. Allez.
Et les graines.
Et les graines. Et les graines. Et les graines.
Alouette.
Une question pour Jean Pueyo qui habite Bourges. Il s'agit de retrouver un serial killer. Hélas, on parle beaucoup de Nordal Hollander en ce moment à cause du procès. Eh bien voilà, un autre serial.
Chez moi, en plus, ça vous fait rire en plus.
Alors là, il s'agit de retrouver le nom d'un serial killer qui n'a jamais pu être jugé parce qu'il est mort à Fresnes des suites du sida avant de pouvoir passer devant un tribunal. De quel célèbre?
C'est Thierry Paulin.
Thierry Paulin, excellente réponse. Eh oui, il est mort en 89, Thierry Paulin.
Il a tué beaucoup de petites vieilles.
Eh oui, le tueur de vieilles.
Ah, c'était lui le petit tueur de vieilles.
Eh oui, non, de vieilles dames.
Le petit tueur de vieilles.
C'était le
tueur de petites vieilles. C'était le tueur de l'Est parisien, c'est
non,
ça
ah, non, ça c'est Guy Georges.
Non, lui c'était à Montmartre plutôt, hein, je crois.
Oui, Montmartre, exactement.
Thierry Paulin.
Originaire de chez moi.
Le monstre de Montmartre, on l'appelait, le tueur de vieilles dames. Il a avoué en 87 les meurtres de 21 personnes.
Il les violait?
Par étranglement ou étouffement. Étranglement ou étouffement.
Ah, oui. Il avait un complice.
Oui.
Michou.
Ah non.
Il y a deux ans son cadet qui est toujours vivant d'ailleurs.
Thierry Paulin est mort du sida en prison avant d'être jugé. Bonne réponse.
Il est de Fort-de-France en Martinique. C'est un Martinique.
Ah ben bah, vous savez tout sur lui alors.
Bah, j'ai hésité à me mettre dans un deuxième opus de mon livre.
Ah ouais, tu trouvais qu'il méritait pas le numéro 1 quoi.
Non, parce que c'est pas assez cruel.
Trop récent.
Oui,
pour Sarah Ellie qui habite Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine cette fois. Retrouverez-vous le nom de cet écrivain, poète français, qui a ramené la salsa chez nous en France.
La salsa, pas la salsa. Alors vous parlez un petit peu allemand. Il a ramené la salsa, forcément dans la samba sarava. C'est le français le plus brésilien.
Pierre Barou.
C'est la chanson de Pierre Barou.
Ah non, ouais. C'est bien avant. Il a ramené la salsa de Cuba.
Il a pas ramené le cacao de Cuba?
Non, pas le cacao.
Je pense savoir qui c'est.
Alors allez-y.
C'est pas quelqu'un que il y a eu un chèque RTL qui a été distribué à cause de lui?
Ah non, je ne crois pas. Mais allez-y quand même.
Bah moi je pensais au plus cubain des Français, au poète José María de Heredia.
Ah non, c'est pas José María de Heredia.
C'est pas
Guy Georges.
Est-ce que c'est un artiste?
Alors un poète, je vous l'ai dit.
Un poète, pardon.
Et pas seulement. Qui a laissé son nom vraiment dans l'écriture et dans l'histoire de France.
C'était il y a longtemps. Alors.
Et c'est vrai qu'on ignorait parce qu'il a fait de la radio en fait.
Ah non, c'est pas très.
Et quand il est revenu de Cuba.
Felipe Bouvard. Aïe aïe aïe. El pequeño.
Il est drôle, Beaugrand.
Este es el pequeño Bouvardo.
Il m'amuse, Beaugrand.
Muchas gracias, el patrón. C'est sûr qu'il est là pour parce qu'il est drôle. Hein,
bah oui, ça c'est sûr que.
Muy inteligente, si.
Si.
Si. Bamon Sabah, il a donné à la
vie. Il vivant ou pas?
Ah bah non, il est pas vivant, non. Ah non, il y a même longtemps qu'il est mort, le pauvre.
À la radio, quand même.
Et il faut savoir qu'il a découvert la salsa à Cuba en 1928, voyez-vous.
Ah oui. Ouais.
Grand amateur de musique, quand il est revenu, il a effectivement, à la radio, passé des 78 tours et des disques, non seulement de musique classique, mais aussi de salsa. Il passait...
Bah, il n'est pas connu pour avoir fait de la radio, ce monsieur.
Ah non, 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 mais...
Oh, mais, alors,
il a découvert la salsa, le tango, oui, le fado, et il passait tout ça sur les ondes de... Alors, Radio Paris, avant que Radio Paris devienne...
devienne Radio, Paris, man, Radio Paris,
c'est pas Carlos Gardel?
Ah, pas, non, 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 non.
Ah, c'est lui.
Mais que... il était Carlos musicien Gardel.
Ah non, il n'était pas musicien du tout.
Il avait un nom espagnol.
Il est mort, hélas, assez jeune et assez tristement, autant vous dire. Il est mort à 45 ans.
Justement d'un accident.
Ah ben c'est Robert Desnos.
Robert Desnos, excellente réponse. Bon. De Paul Elkarac. Alors attendez, là je voudrais comprendre parce que je n'ai pas donné la date de naissance, je n'ai pas donné la date de mort.
Parce que je sais qu'il est mort à 45 ans en déportation en Tchéquie.
Eh ben oui.
Et c'est l'un des plus célèbres poètes français de la première moitié du XXe siècle. Et c'est vrai qu'il est...
Il est mort du typhus hein, dans un camp de concentration.
En Tchéquie, ouais.
En Tchécoslovaquie.
En juin 45.
Un mois après sa libération par l'armée rouge, le dernier jour de la guerre.
Mais il était malade déjà.
Robert Desnos avait ramené effectivement d'un voyage à Cuba dans les années 20, la salsa et autres musiques qu'il avait pu découvrir sur place. Allez, une dernière question. Ah, ça c'est une question historique. Lors de la naissance du roi de Rome, fils de Napoléon, hein, c'est bien ça,
c'est
monsieur?
C'est ça, Napoléon II, duc de Reichstadt, roi de Rome.
Très bien, bah écoutez...
C'est ça, il y a encore une question quand même. Vous nous dites, hein, sinon... On trouve d'autres trucs à dire, nous. Vous avez plus de questions, c'est ça.
Sinon, d'accord. Vous débranchez Siri, puis nous, on joue entre nous.
Il a attribué à son fils, à Napoléon II, qui portera ce titre, roi de Rome, Napoléon Ier, jusqu'en 1814. Hein, c'est bien ça?
Trois ans,
roi de Rome.
Ah ouais, je pensais que c'était quatre.
C'est une question.
Alors, au moment de la naissance, donc, de Napoléon II, donc, roi de Rome, les officiers de la garde impériale ont offert un oreiller au nouveau-né. Mais par quoi avait-il remplacé les plumes de l'oreiller?
Les cheveux de Joséphine de Beauharnais.
Non.
Est-ce que ce sont des cheveux?
D'animaux.
Ce sont des cheveux.
D'abord, est-ce que c'était le fils de Joséphine de Beauharnais?
Pas non, du non, tout. Non, hein. Bah non, c'est le fils de. Mais justement, non. Elle pouvait pas
elle
avoir d'enfant
pu avoir
de Marie-Louise.
D'enfant,
alors bon. Pourquoi vous racontez des conneries pareilles?
Parce que peut-être qu'elle peut faire un cadeau.
Les mèches de Napoléon enfant.
Non, on était tout près, mais.
Est-ce que ce sont des cheveux?
Non. On est là.
Les poils du cheval de Napoléon.
Non.
Peut-être, ça pourrait.
On est au moment de la naissance, donc, du fils de Napoléon et les officiers de la garde impériale vont offrir un oreiller.
Barbe des officiers.
Les moustaches et les barbes des officiers.
C'est dégueulasse.
Bonne réponse.
Alors écoutez, je vous dis.
Quelle horreur.
J'ai déjà entendu des cadeaux à chier, mais alors.
Ouais. Mais non, c'est mignon.
Mais c'est vrai,
la barbe
c'est
et la moustache.
Bah attendez, pourquoi le poil de barbe serait plus sale que.
T'offres pas ça à un bébé dans un oreiller.
Rappelle de ce que tu m'as offert, Julie. Je l'ai encore fait des petits coussins.
Moi, je trouve ça mignon.
Ah, vous avez fait des petits coussins, Julie?
Avec tes poils de cul, c'était mignon.
Mais pas du tout.
Ah, c'était des gros traversins.
Mais vous croyez encore ce que dit Laurent Baffi?
Oui, parce que les années 70,
c'était des gros traversins, crois-moi. Aujourd'hui, tu peux faire du tout petit coussin ridicule.
Vous êtes velue, Julie?
Mais pas
oui,
du
mais
tout.
Elle est velue, elle est velue.
Non, mais elle a tout perdu. C'est fini.
Mais je tiens à dire qu'aucun officier de la garde n'était barbu, donc c'est pas une bonne réponse.
Ah, des moustaches, c'est
voilà,
moustaches.
Que de la moustache.
Effectivement,
ah.
Bravo.
Ah ouais, mais... c'était pas des hipsters.
Oui, mais alors, pardon, il fallait quand même.
Aucun général.
Il fallait qu'il y ait combien de moustaches?
Il fallait beaucoup
moustaches
de moustaches pour
mais
remplir
un
oreiller.
Mais un bébé nouveau-né, ça a une toute petite tête.
Bah oui, d'accord,
mais
une moustache, c'est pas beaucoup, ça prend pas beaucoup de place.
Mais
oui,
les moustaches,
si tu prends toute la garde.
Dis-moi, au bout, il y avait de la rouflaquette.
Ouais.
La garde impériale portugaise, ils ont fait une couette.
Oh, ça, c'est vache.
C'est Demis Roussos, il te fait le matelas entier.
Écoutez, c'est une bonne réponse collective. Et
bon,
puis
allez,
voilà.
Allez,
c'est gentil, merci.
Ah, une question plus compliquée, peut-être, pour Michael de Testula, qui habite Brive-Charensac,
Testula,
Haute-Loire. Et c'est une date. Je m'y risque.
Oh.
Est-ce que monsieur Paul Elkarad va savoir nous dire ce qui s'est passé le 6 octobre 1582?
Allez, vas-y, Paul.
Il y a déjà, c'est la mort de Sainte-Thérèse d'Avila.
Oui.
Et il y a eu un problème dans le calendrier, c'est-à-dire qu'on est passé de 82 à 83, c'est-à-dire on est passé du 15 octobre
à début décembre.
Alors écoutez,
il y a eu un problème dans le calendrier, c'est-à-dire l'année 1582.
Vous touchez la bonne réponse.
Oui, on est passé du 15 octobre.
Que s'est-il passé le 16 octobre?
Il y a eu une ellipse de plusieurs jours.
Alors,
c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jours ce qui n'ont jamais existé. Il y a eu un remaniement du calendrier.
Que s'est-il passé donc?
Ils ont rectifié le calendrier.
C'est-à-dire que le calendrier a été, il y a eu des jours qui ont été supprimés.
Non, des jours bissextiles.
Vous n'avez pas la bonne.
Non, parce qu'il faut donner la réponse exacte.
Exact.
Mais on comprend rien.
On est passé.
Ils ont raccourci le mois de février.
Non, on est passé du 15 octobre.
Non. On a supprimé le mois de novembre.
Non, en fait, on a changé de calendrier.
Oui, alors.
Du calendrier julien au calendrier grégorien.
Au calendrier qui a suivi grégorien.
Du calendrier julien au grégorien.
Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'à cette époque-là, on est passé entre du calendrier julien au calendrier grégorien.
Donc, il y a des jours qui n'ont pas existé.
Mais.
Ils n'ont jamais retrouvé le petit grégorien.
Mais vous n'avez pas tout à fait la bonne réponse.
Qu'est-ce qu'il faut que je dise, en fait?
Puisque vous n'avez pas tout à fait les bonnes dates du passage.
Oui, alors
Et donc, ma question, je la répète, que s'est-il passé le 6 octobre 1582?
Rien, il n'y avait pas
rien.
Rien n'a pas existé.
Bonne réponse de Caroline Diamant. Pardon, hein, Paul. C'est le 5 octobre. C'est là où Paul s'est trompé.
Oui, non, mais
c'est le 5 octobre qu'on est passé.
C'était facile pourtant.
Qu'on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien.
On est passé du 5 au 15.
On est passé du 5 au 15. Il y a 10 jours.
10 jours
qui n'ont pas existé. Et donc le 6 octobre 1582 n'a jamais existé.
Ah, c'est génial.
C'est donc rien passé ce jour-là. On va quand même accorder une réponse collective au duo Diamant et Karat.
Ouais. C'est Caro qui a la bonne réponse.
Plus communément appelé le duo des cerveaux.
Non, mais j'ai juste envie de dire une chose. Qui aurait été sur cette piste, là, si j'avais rien dit?
Oh, ça va. Oh.
Bah, si, mais il a raison.
La question suivante est cinématographique pour Johan Léal Netto, qui habite Camaret-sur-Mer. C'est dans le Finistère.
Le curé de Camaret a des couilles qui pendent.
Le curé de Camaret.
Et quand il s'assoit dessus, ça lui rentre dans le cul qui pende.
J'aimerais vous demander quelle est la particularité
du curé de Camaret.
Non,
il a les couilles qui pendent.
Il a les couilles qui pendent.
Du film d'Otto Preminger sorti en 1954, film qui s'appelait Carmen Jones.
C'est un plan séquence.
Je sais. Ah non, bah vas-y.
Premier film couleur.
Le premier film avec une actrice noire, je pense.
Non.
Non, mais Carmen Jones était interprétée par une
ça, c'est
actrice
vrai.
Noire.
Il n'y a qu'une seule actrice. Il n'y a personne
Preminger.
D'autre.
Ah, mais c'est bien un film d'Otto Preminger. C'est vrai que l'actrice principale est noire.
Mais c'est la première actrice noire récompensée. Musicale.
Non, la première actrice noire récompensée, c'est
dans... celle d'Otto Preminger.
Autant le vent. Elle est jouée par Dorothy Dandridge, Carmen Jones, mais ça n'est pas la bonne réponse.
C'était sa compagne, Dorothy Dandridge.
La compagne de qui?
D'Otto Preminger.
Ah non, pas du tout. Non, vous êtes tout près de la bonne réponse, mais.
C'est lié au fait que ce soit une femme.
Loin en même temps.
Elle est morte à la fin du tournage.
Ah non.
Elle meurt pendant.
Attendez, Carmen Jones d'Otto Preminger, c'est pas mon film préféré d'Otto Preminger.
Ça raconte quoi?
C'est Carmen, mais c'est une autre version.
Oui. Ah d'accord, c'est Carmen.
Mais c'est une Carmen noire, donc c'était effectivement à l'époque.
Mais c'est pas la seule particularité du film.
Première comédie musicale, premier film chanté.
Non, premier film
en cinémascope.
Non, premier film chanté non plus.
Première scène de nu.
Non.
Elle s'est présentée à la primaire populaire.
C'est dans le film Le Lieu peut-être.
Non.
La durée.
On était tout prêts au départ avec
l'actrice noire.
C'était donc l'héroïne est une actrice noire.
Ça c'est vrai.
À une époque où c'était pas courant, Dorothy Dandridge, elle a eu une fin atroce.
Carmen travaille dans ce film dans une usine d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est une arme qui l'a tuée.
Non, Otto Preminger, effectivement, a adapté Carmen de Bizet en version contemporaine. Et ce film en 1954 a fait énormément parler pour une raison bien précise.
Parce qu'il était dit, il était parlé en allemand.
Ah non.
Est-ce que ça crée une polémique?
Polémique, je ne sais pas.
Les couples mixtes n'étaient pas autorisés.
Non, mais le film a été interdit d'importation en France. Pendant 25 ans.
A envoyé ses genoux.
Non.
Ça choquait la morale.
Mais pas pour cette raison-là.
Laurent, ça choquait la morale.
Choquait la morale, non, mais c'était une première, en tout cas, dans les années 50.
C'est un couple avec un blanc.
Mais si le film a été interdit en France, ça n'a rien à voir avec la particularité que je vous demande de retrouver, mais je vous le dis parce que c'est toujours intéressant à savoir.
Ça peut ne pas nous aider, donc vous le faites.
Mais non, mais ça peut nous intéresser.
Non, mais c'est toujours intéressant, c'est que les héritiers, si vous voulez, de ceux qui avaient écrit Carmen, Ludovic Halévy et Henri Meillac.
Ils n'ont pas aimé.
voilà, on fait un procès à Otto Preminger et donc le film a été interdit d'importation en France parce qu'ils estimaient qu'on avait volé les droits de Carmen, tout ça.
On avait dénaturé.
Monsieur, mais ils étaient déjà morts les deux.
Oui, mais les héritiers.
Ah, les héritiers.
Si vous écoutiez ce que je dis.
Dans le vrai Carmen, elle est cigarettière et là, elle travaille dans une usine d'armement.
Oui, mais ça n'a pas d'importance. Non, non.
Est-ce que ça a rapport avec l'actrice?
C'est par rapport à l'actrice.
Pas seulement.
Non, par rapport à l'actrice, à sa couleur de peau.
Oui, ça oui.
Et il n'y avait que des noirs dans ce film.
Il n'y avait que des noirs dans le film. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est la première fois. C'est la première fois que dans un film américain, il n'y avait que des acteurs noirs. Ça, c'est une excellente réponse. Signé bravo. Christophe Beaugrand.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien?
Très bien.
La voix est déformée, mes camarades grosses têtes vont vous poser toutes sortes de questions.
Vous êtes un monsieur.
Je suis un monsieur.
Vous êtes un monsieur, oui.
Un monsieur qu'on reconnaît facilement dans la rue?
Oui, ça commence, oui.
Oh là là, oh, il n'y a pas l'air commode.
Ça commence, vous êtes en début de carrière alors?
Non, mais les gens se souviennent, ils sont moins cons qu'avant.
D'accord,
les gens sont moins cons qu'avant.
Oh, bon, on n'habite pas le même pays, alors.
Ça, c'est drôle.
Alors, dites donc, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui suscite l'hilarité de vos contemporains?
Pas du tout.
D'accord.
Vous ne mâchez pas vos mots tout de même.
Ah bah non,
ce qui fait quand même parfois rire, faut bien dire.
Ça m'arrive de faire rire.
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère?
J'ai plein d'enfants. Trois plus les autres.
Comment?
Trois plus les autres.
Une femme, elle peut pas faire ce genre de vanne.
Est-ce que vous êtes marié, invité?
Absolument, à fond.
Vous avez été marié combien de fois?
Je ne sais plus, mais c'est excessif.
Oui, vous parlez de vos pensions alimentaires, peut-être.
Ah bon?
Est-ce que vos enfants ont des enfants?
Non, pas encore.
Laurent Buffy, et je comprends pourquoi, parce que il a entendu votre phrasé, Laurent Buffy, et il propose Patrick Chenet. Mais vous n'êtes pas Patrick Chenet.
Pas souvent.
Est-ce que vous étiez connu au siècle dernier?
Ah non, pas quand même.
Ouais, c'était il y a 22 ans.
Est-ce qu'on vous a déjà vu nu quelque part?
Au siècle dernier.
Ah oui, bien sûr.
Le 20e siècle.
Au 20e siècle, oui.
Avant l'année 2000. Voilà. Oui.
Paul Alcarat propose Charlie Couture. Êtes-vous Charlie Couture?
Quelle drôle d'idée.
Pas du tout.
Voici un premier indice musical. C'est Josiane Balasco, je vous aide un peu. Hein.
Ouais, c'est Balasco.
C'est Josiane Balasco qu'on entend chanter, qui nous sert de premier indice.
Vous avez joué avec Josiane Balasco?
J'ai joué avec elle, oui.
Vous êtes comédien?
Je peux être comédien.
Il peut être comédien, et attention, ne partez pas sur une mauvaise piste quand il dit qu'il a joué avec elle. Vous avez rarement joué, invité mystère.
Non, j'ai fait une réplique par-ci, par-là.
Ah oui,
donc c'est pas pour ça qu'on vous connaît, vous n'êtes pas acteur de profession.
Est-ce que votre fille vous reproche quelque chose?
Les enfants me reprochent plein de trucs.
Est-ce que vous écrivez, invité?
Oui.
Ah, écrivez, donc vous avez écrit pour Josiane Balasco?
Par exemple.
Vous avez écrit des livres également ou essentiellement des scénarios ou des pièces?
Des livres aussi.
Des livres, des pièces et des films.
Est-ce que vous avez aussi réalisé, invité mystère?
Ah oui, en masse.
Ah oui.
Ah, bah donc c'est votre métier.
Donc c'est votre métier principal.
Vous avez réalisé essentiellement des comédies?
Non, pas forcément.
Est-ce que vous êtes mon idole?
On sait rien, mais faut qu'on se voit.
C'est Laurent Buffy qui pose la question. Paul Alcarat propose Marc Lévy. Êtes-vous Marc Lévy?
Pas du tout.
En revanche, bravo Laurent Buffy, vous avez déjà identifié notre
mystère. Donc vous êtes mon idole.
Mystère.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des récompenses type des Césars?
Bien sûr.
Voici un deuxième indice.
De la femme de mon pote, je suis amoureux. Des situations comme ça, j'en souhaite à personne. S'il y en a un des deux, qui sait, je perds les deux conditions sine qua non. Pas de ça entre nous. L'amitié, c'est plus fort que tout. Avec une phrase comme ça, je risque rien. Crois toi, crois te faire, crois-moi, je peux pas faire ça à un copain.
C'est Aldebert qui chante La femme de mon pote, voilà un bon indice. Julie propose Patrice Lecomte, mais vous n'êtes pas Patrice Lecomte. Christophe Beaugrand avait pensé à la même chose. Caroline Diamant, bravo Caroline, vous a identifié, ça fait déjà deux grosses têtes qui vous ont reconnu.
Est-ce que vous avez tourné des films en noir et blanc?
En effet, oui.
Ah oui, bravo Beaugrand, effectivement, il a réalisé un film en noir et blanc, peut-être même plus qu'un, mais en tout cas moi je m'en souviens particulièrement d'un.
Ah putain.
Voici un autre indice.
Ah mais oui, ça y est.
une musique signée Stéphane Grappelli. Un des premiers films de notre invité mystère. C'est un bon indice. Paul Elkarat propose, j'imagine, Serge Azanavicius, mais vous n'êtes pas Azanavicius.
Michel.
Ou Michel. Julie Leclerc vous a identifié. Bravo, Julie. Tandis que Christophe Beaugrand propose Jacques Weber, c'est ça?
Oui, c'est pas, c'est pas le bon prénom, de toute façon.
C'est pas
ça. Francis, de toute manière, mais c'est pas lui.
Ah, non, non. Francis Weber, non.
Mais non, non.
Vous n'êtes pas Francis Weber.
Il est né con.
Est-ce que vous avez écrit votre biographie?
Pas encore, non.
Pas encore, mais le livre avec lequel vous venez nous voir aujourd'hui est quand même en partie autobiographique.
Mais quelques souvenirs, oui.
Eh oui, quelques souvenirs. Voici un autre indice. Ah, cette fois, c'est Georges Delerue qui signe encore la musique d'un de vos films, un de vos célèbres films. Mme Treveiller, ah le bon nom, bravo Valérie Treveiller, encore une grosse tête qui vous a identifié.
Ah, oh je trouve pas mon.
Mais Monsieur Beaugrand et Monsieur Paul Elkarat cherchent encore. Paul Elkarat propose Alexandre Arcadi. Êtes-vous Alexandre Arcadi?
Pas du tout.
Pas du tout.
Impossible.
Très bien.
Voici un acteur que vous avez fait souvent tourner.
Comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Y'a le metteur en scène qui te fait des scènes et t'en as bien marre, ta tête de cafard. T'es rien qu'un objet, un pion du ciné. La lumière dans la figure, c'est dur, c'est dur. Mais moi, je vois. Comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien.
Vous aurez reconnu évidemment Gérard Depardieu.
Oui, mais j'avais jamais entendu cette chanson.
Ah, il a chanté dans un numéro 1.
Ah oui, oui.
Je connais ça.
Monsieur Beaugrand et Monsieur Paul Elkarat,
je sais.
Tant pis pour eux, je vais me tourner. Je vais me tourner vers Laurent Baffy, vers Caroline Diamant, Julie Leclerc et Valérie Travailleur. 4 grosses têtes sur 6, c'est déjà pas mal. Notre invité mystère, c'est
Bertrand Blier.
Bertrand Blier qui nous rejoint. Bertrand Blier, c'est bien notre invité mystère. Quel accueil. Bertrand Blier qui publie Fragile des bronches, c'est déjà un titre très drôle, je trouve. Fragile des bronches, évidemment. On a à travers les indices donnés retracé une partie de votre carrière de réalisateur en retrouvant les musiques des valseuses, par exemple, préparer vos mouchoirs. Josiane Balasco, évidemment, c'était pour Trop belle pour toi. Gérard Depardieu, on a évoqué Tenue de soirée, Buffet froid, les valseuses. Évidemment, au départ, préparez vos mouchoirs. On va pas donner toute la liste de vos films, mais quelle filmographie incroyable, jusqu'au dernier en date, Convoi exceptionnel. Mais là, c'est pour un livre que vous venez nous voir, Bertrand Blier. Ce livre dont j'ai dit effectivement qu'il était quand même en partie autobiographique, même si c'est un roman, parce que quand même votre personnage principal, le jeune homme de ce livre, a un papa comédien déjà.
Oui, en plus il est fragile des bronches.
Il est fragile des bronches. Mon père est acteur, il rentre tard après ses gueuletons avec des copains. Il vient voir si je tousse, il me donne un grand verre d'eau, c'est mon père, un mec génial. Il baise beaucoup de femmes, puis va se coucher silencieusement à côté de ma mère. Elle vient se blottir contre lui, lui donne ce qu'elle veut, c'est-à-dire de l'amour. Et le lendemain matin, elle a les yeux cernés. Il est beau et séduisant, très marrant, mais il baise trop de femmes. Ma mère dépérit. Voilà un petit résumé de la situation dès le départ du livre.
Oui, ben c'est les souvenirs que j'ai. Hein.
C'est quand même assez honnête de votre part. Et je sais pas si votre papa il serait si content que vous le racontiez comme ça. Si au fond, c'est un bel hommage que vous lui faites.
Il serait de mauvaise humeur, il serait pas content.
Ah, il serait pas content, vraiment?
D'ailleurs, j'ai attendu longtemps avant de le faire.
Et évidemment, quand vous l'attendiez, quand vous étiez chez le médecin, ou effectivement en vacances, quand vous aviez ces problèmes de santé, vous lui téléphoniez. Et là, par exemple, je lis ce passage, je téléphone à mon père, qui se trouve à Dijon, hôtel Mercure. « T'as un problème ?» demande mon père. « Quand est-ce que tu viens nous voir ?» Et là, il répond « J'ai 500 personnes qui m'attendent tous les soirs. Je ne peux pas les abandonner. Comment va ta mère ?» Les tournées d'un père acteur. Et quand vous le rejoigniez en tournée, vous découvriez évidemment qu'avec la petite actrice qui jouait...
Il y avait des possibilités de déviation.
Il vous faisait même rentrer dans la chambre de
non,
la...
Non, non, pas vraiment.
Ah, ça c'est dans votre imaginaire?
Bah, j'en rajoute toujours un peu, vous le savez.
Ah bah alors, faites bien d'en rajouter parce que c'est évidemment à la fois émouvant et drôle, évidemment, ce livre. Est-ce que la dégraissée, ça a vraiment existé?
Oui, ça a vraiment existé et il y a eu des victimes.
Alors, c'est quoi ça, la dégraissée?
Alors, c'est un breuvage, la dégraissée. Ouais, voilà, un breuvage.
Vous donnez la recette ou pas?
Ah bah alors,
non, alors, j'ai pas la recette, je la cherche. Et malheureusement, tous les gens qui ont été témoins et qui ont bu de la dégraissée sont morts.
C'est radical, remarque.
Sinon, j'aurais trouvé facilement, j'aurais téléphoné à 2-3, j'aurais appelé François Perrier, il m'aurait donné la recette de la dégraissée. Mais bon,
il y a un début de recette hein, dans le livre. Cognac, bénédictine et marc de raisin, c'est la base. On peut l'enrichir selon l'inspiration avec du rhum ou du whisky et un doigt de champagne bien frais.
C'est un beau mélange.
Vous n'êtes pas sûr de ce mélange, en fait.
Pas sûr, je le boirai pas aujourd'hui.
Ça réveille, en tout cas, ou ça endort.
J'ai des problèmes avec mon père, j'ai des problèmes avec ma mère, et j'ai même des problèmes avec des gens que je ne connais pas et que j'ai jamais rencontrés. Ce qu'il faudrait, c'est que je rencontre une fille. Cette fille, vous la rencontrez assez vite, au fond. Et ce qui est émouvant dans ce livre, c'est qu'on voit, évidemment, la tante de la maman qui, elle aussi, au bout d'un moment, évidemment, vu l'absence du mari, va elle aussi rencontrer d'autres messieurs, n'est-ce pas?
Elle va avoir ça, elle va glisser un peu.
Ben voilà, tout le monde glisse. tout le monde glisse un peu.
Enfin, la mère, en général, on n'y touche pas. J'ai longtemps attendu, parce que c'est un personnage qui a beaucoup compté dans ma vie. J'avais énormément envie d'écrire sur elle et je ne le faisais pas par respect.
Est-ce que votre père a vraiment foutu un bourre-pif à un amant de votre mère? Non pas parce qu'il trompait, il couchait avec sa femme, mais parce qu'il avait dit qu'il était mauvais comédien?
Oui, c'est ça.
ça se fait pas.
On n'a pas le droit de faire ça.
Il a montré qu'il s'était Raoul.
Vous avez une admiration sans borne pour Bertrand Blier?
Ah, mais c'est un dieu pour moi. Voilà, c'est un génie. C'est le meilleur réalisateur français. Je n'ai pas de superlatif pour parler de lui. Je suis ému de le voir.
Tu peux dire du monde.
Et voilà, je le vénère.
Il demande de dire du monde.
Alors, vous racontez aussi parfois les vacances à Saint-Paul-de-Vence, quand vous partez dans deux chambres communicantes, ce qui permet à votre père d'entamer un concours de paix, ce qui vous fait rire, vous, mais pas votre mère. Décidément, dites-vous, elle n'était pas douée pour le bonheur. Vous faisiez vraiment des concours de paix avec votre père?
Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un père?
Et puis alors, à la fin du livre, je ne vais pas tout raconter, mais je trouve que ça montre aussi beaucoup de la fragilité des comédiens. Et vous qui êtes metteur en scène, vous avez peut-être parfois abusé aussi de ce pouvoir du metteur en scène ou du réalisateur, parce que à la fin du livre, vous racontez, vous êtes très jeune encore, mais cette rencontre avec Henri-Georges Clouzot, grand réalisateur
tyrannique de l'époque,
tyrannique même avant que les films se fassent, parce que il a plusieurs rendez-vous et entretiens avec votre père Bernard Blier, et à chaque fois il lui parle d'autres comédiens auxquels il pense pour un rôle, alors que Bernard Blier, évidemment, enfin, on imagine que c'est lui hein, dans votre livre, même si évidemment c'est une fiction, mais les comédiens ont tous connu ça, j'en suis sûr, c'est-à-dire que l'acteur, évidemment, n'ose pas dire mais c'est moi ce rôle-là. C'est moi le meilleur pour ce rôle-là, il n'ose pas le dire au réalisateur, et le réalisateur il fait exprès pendant plusieurs rendez-vous, je pense à machin, qu'est-ce que t'en penses d'un tel pour ce rôle-là?
C'est sadique.
C'est sadique. Ouais,
c'est un peu cruel. Hein.
Vous l'avez fait, vous, Bertrand Blier?
Non, pas vraiment, parce que je ne suis pas sadique. mais Clouzot l'était.
Clouzot l'était. Et il a finalement, évidemment, fini par tout de même engager votre père pour ce film, pour lequel il a fait quand même marner plusieurs rendez-vous. C'est un roman dialogué qui pourrait être un film ou une pièce de théâtre?
Tout peut être un film.
Comment ça, tout peut être un film?
Ah ouais.
C'est difficile pour le roman, il faut quand même l'écrire. Mais le film, ça se fait assez.
C'est plus facile pour vous aujourd'hui de faire un livre qu'un film, Bertrand Blier?
C'est plus facile, oui.
C'est plus facile.
C'est plus amusant.
Et nous, ça nous permet en tout cas de continuer à profiter de votre verve. J'ai bien dit verve. Ça s'appelle...
Oui, je préférerais. Parce que...
ça s'appelle... Et vous avez reconnu l'humour de Bertrand Blier. Vous le retrouverez dans ce livre.
Non, j'ai dit ça pour faire rire ma fille. Parce que...
ça a marché. Hein.
Ça s'appelle Fragile des bronches. C'est aux éditions Segers. Merci Bertrand Blier d'avoir été notre invité mystère. À demain, 15h30, avec d'autres grosses têtes.